chant à l'appel des églises. Marchez les partisans blancs à l'appel des églises. Marchez les partisans blancs à branler toutes vos chevilles.
Ici Radio Courtoisie, la radio libre du pays réel et de la francophonie. Programme national à Paris sur 95 MHz 6, à Caen sur 106, à Chartres sur 104.5, à Cherbourg sur 87.8, au Havre sur 101.1, au Mans sur 98.8, pour toute la France, l'Europe et l'Afrique du Nord sur le bouquet satellite TPS et pour le monde entier sur le site internet tv-radio.com. Vous écoutez le libre journal de Serge de Bekech avec l'assistance de Victoria, diffusé en direct mercredi 28 février 2001 de 18 à 21h, en différé jeudi 1er mars dans la nuit de 2h à 5h et dans la matinée de 7h30 à 10h30. Ce libre journal est réalisé par Franck. N'oubliez pas que Radio Courtoisie est une radio culturelle associative. Afin de sauvegarder une indépendance absolue, Radio Courtoisie refuse toute ressource publicitaire. Radio Courtoisie ne vit que grâce à ses auditeurs. Aidez-nous à demeurer libre, adhérez à notre association. Pour cette année, la cotisation minimum est de 250 francs. Elle comprend l'abonnement annuel au courrier de Radio Courtoisie. Envoyez votre chèque à Radio Courtoisie, 61 boulevard Murat, 75 016 Paris. Vous pouvez intervenir au cours de cette émission par téléphone au 01 46 51 00 85, par télécopieur au 01 46 51 21 82.
Amis de la Résistance, bonsoir. Bonsoir Monsieur Madiran, bonsoir Madame Gallic, bonsoir Monsieur Ratier, bonsoir Monsieur Blanza.
Bonsoir.
Alors vous avez tous.
Bonsoir Monsieur Bekech.
Oh pardon, oui. Bonsoir alors. Madame Victoria. Vous avez tous compris que nous allons ce soir faire le clan de la presse. Que nous avons ce soir réuni le clan de la presse. Le clan de la presse. C'est pas terrible comme début, hein.
Ça va s'arranger.
Le plan de la crèche.
Bon, ça va s'arranger, chers auditeurs. Je manque un peu d'entraînement.
C'est l'émotion de vous retrouver.
J'ai un mot d'excuse, j'ai été malade. C'est comme disait la petite souris en passant sur le pont avec l'éléphant. Vous connaissez l'histoire, non?
Non.
Oh, bah, c'est une petite souris, un éléphant qui passe sur un pont et qui font trembler le pont. La petite souris dit à l'éléphant, dis donc, t'as vu ce qu'on fait comme bruit? Et l'éléphant lui dit, mais tu es pour rien, regarde, t'es toute petite. Elle dit, oui, mais moi j'ai été malade. Voilà, vous pourriez rire. Merci. Alors, le clan de la presse en première partie, et en deuxième partie, nous ferons le point sur le scandale Beljanski. Vous savez que j'ai particulièrement à cœur cette affaire, parce que il s'agit d'un énorme scandale médical en France et qui est la résultante du comportement criminel des mafias pharmaceutiques et de leurs larbins politiciens. Donc on parlera de ça dans la deuxième partie de l'émission, puisque le procès de l'affaire Beljanski va intervenir ces jours-ci. Alors, le jeu du principe du clan de la presse, c'est qu'on parle de l'actualité. Chacun parle de l'actualité à sa manière et de son point de vue, le point de vue de présent pour Jean Madiran, le point de vue de Rivarol pour Camille Gallic, le point de vue de faits et documents pour Ratier. Et j'ai décidé d'inviter un nouveau collaborateur, un nouveau participant à ce clan de la presse, pour parler d'un journal que j'aime bien, mais dont j'ai pas souvent l'occasion de parler.
C'est
un excellent journal. Au demeurant,
4 places France Liste.
Donc, qui est le Libre Journal. Et j'ai demandé à Michel Blanza, parce que Michel est plutôt spécialisé dans les questions de politique étrangère.
Oui.
Et donc, pourquoi ne pas parler de politique étrangère aussi, voilà. Vous pourrez converser avec Camille de ces questions, parce que je crois qu'elle est. Mm-hmm. Je sais
sur les,
qu'elle
sur
est.
Les balcons. En général, c'est moi qui m'appuie. Alors là, on sera deux. À partager le fardeau de l'homme blanc.
Avant, je voudrais quand même vous donner connaissance à tous d'un courrier que je viens de recevoir. Je trouve ça absolument charmant. C'est un monsieur, je ne donne pas son nom, il s'appelle monsieur D, qui me dit, contrairement à ce que vous affirmez, la police n'est pas laxiste, elle court toujours, elle est laxative. J'en veux pour preuve cette convocation reçue par courrier recommandé avec avis de réception suite à une contravention pour non-affichage du ticket horodateur. Alors, l'histoire, c'est que ce monsieur avait rédigé pour une dame handicapée une lettre de protestation, parce que cette dame handicapée avait été obligée de se garer sur une place de stationnement payant, parce que la place réservée aux handicapés avait été occupée indûment. Et elle avait reçu une contravention, bien qu'elle ait dûment fait savoir les raisons pour lesquelles elle était garée à cet endroit-là. Elle a demandé à ce monsieur de rédiger le courrier de protestation, il l'a fait, et voilà le résultat. Alors je vous lis la convocation, ministère de l'Intérieur, République française, liberté, égalité, fraternité, Poilonnais, Montreuil, le 26 janvier 01, numéro de dossier, blablabla, à la demande de madame Nicolas APJ, alors ça doit être, je sais pas, adjoint de police judiciaire. Adjoint, vous allez voir quand même que la police, quand elle tient à soupçonner des délinquants, elle ne fait pas avec le dos de la cuillère. À la demande de madame, monsieur D est prié de bien vouloir se présenter à l'adresse suivante, suit l'adresse du commissariat, le 19 février, pour contravention au code de la route. Dans l'hypothèse où la date et l'heure fixée, blablabla, avec pièce ci désignée, carte grise, attestation d'assurance du véhicule de madame C. Bernadette. Alors madame C. Bernadette, c'est la dame handicapée pour qui la lettre avait été rédigée. Et alors dessous, il y a surligné en rouge, dernier avis avant interpellation à domicile. Vous avez bien entendu. Hein? Défaut de rodateur. Présentez-vous au commissariat. Dernier avis avant interpellation à domicile. Mais... il sera fait usage de la force publique.
Peut-être fouille au corps.
Mais ils sont malades. Ils sont toqués, ces gens-là.
Non, mais en plus, j'ai l'impression que le malheureux qui est convoqué n'était qu'un intermédiaire. Oui. Qui, en plus, n'a commis, lui, aucune faute.
Rien.
De stationnement.
Alors, il me dit...
Donc, en plus, ils ne savent pas lire.
Les sauvageons ont intérêt à se méfier. On va leur envoyer le GIGN. J'attends avec angoisse. C'est un pote à moi, dit-il. Moi, je le connais bien aussi. L'instant où ils vont me mettre les pinces, j'avais cru faire une BA, etc., etc. Pourriez-vous m'envoyer un avocat dès ma première heure de garde à vue ? Merci. C'est formidable.
Vous avez précisé à quel commissariat il est convoqué ?
Oui, commissariat de Montreuil.
Ils n'ont que cela à faire.
Ils n'ont que ça à foutre, surtout à Montreuil.
À Montreuil,
la première ville
malienne
de France. Du monde.
Maintenant,
alors, à la demande de Madame Nicolas APJ. Madame Nicolas APJ. Elle n'est pas très occupée, il faut croire, cette dame. Elle ne doit pas être submergée de travail à Montreuil. Il ne doit pas y avoir beaucoup, beaucoup, beaucoup de délits.
Non, il n'y a presque plus de marché aux voleurs,
plus
de Montreuil, presque
non,
plus rien.
Pratiquement pas, moi
plus rien.
Je vais souvent
sinon...
au plus de Montreuil, qu'est-ce qu'on voit ? On voit pas plus d'une quinzaine de types qui vendent des montres, des appareils photo, des postes de radio automobiles volés. Oui. Mais peut-être que Mme Nicolas APJ n'a peut-être pas tellement envie d'aller faire le ménage aux puces de Montreuil. Je sais pas, je pose la question, hein, moi. Donc elle préfère aller arrêter les vieilles dames handicapées à leur domicile si elles se voient. Vraiment, on croit arriver. Est-ce que vous avez envie de parler de M. Combandi ou pas ?
Ben, j'ai fait l'édito sur lui, enfin sur... C'est une affaire qui n'a strictement... en soi, aucune importance du point de vue de Cohn-Bendit. Mais enfin, moi, ce qui me frappe beaucoup, c'est qu'il dit, après tout, ces faits sont totalement... ils ne se sont pas passés, mais ce serait-il passé que 25 ans après, on ne va pas en faire un fromage.
Il y a des fromages qu'on fait pour des choses
alors,
qui se sont passées depuis 25
vendredi,
ans.
Ce vendredi s'ouvre le procès par contumace d'Aloïs Brunner.
Ouais.
Ça fait 56 ans que la guerre est finie.
Ouais.
Donc, il n'y a pas de prescription sur pour certaines choses. Alors on dira c'est un crime.
Ou pour certaines personnes.
Aloïs Brunner, c'est un crime contre l'humanité. Et je pose la question, est-ce que mai 68, en ce qui concerne les enfants, par exemple, la destruction des familles au sens large du terme, le déboussolage des esprits est vraiment la décomposition de la famille avec tout ce qui s'ensuit, la drogue, les enfants drogués, les sauvageons, justement, etc. Est-ce que ça n'a pas été non plus un crime contre l'humanité qu'on risque de payer terriblement cher?
Enfin, on sait en tout cas que le bilan du génocide franco-français est en train d'atteindre des chiffres qu'on a connus dans d'autres génocides.
Voilà.
Et ça, c'est le fruit de 68, parce que toute cette extrême gauche, ultra gauche, elle est à l'origine de l'adoption de toutes les lois avorteuses et infanticides. C'est évident, ça. Donc,
enfin, je rappelle quand même que la loi sur la contraception, la loi Neuwirth, avait été votée sous De Gaulle. De Gaulle étant président, et si, selon le témoignage de Neuwirth que j'avais interviewé à l'époque, le général l'avait très chaudement encouragé à présenter cette loi.
Mais quand on aura mesuré toute
donc,
la
je signale
nocivité
tout de même
du général à titre temporaire, on aura fait des problèmes. Ouais. Alors, j'espérais vaguement que le retard d'Adeline était tout simplement un refus de participer à notre clan, mais non, pas du tout, il est là quand même.
Je vous présente toutes mes excuses.
Non, non, on n'excuse plus, on abat comme un chien avec des balles rouillées. Et en plus, alors, non mais Adeline, il est comme le Sparda du capitaine Haddock, quoi. C'est-à-dire que il est là tout le temps maintenant. Je ne savais pas que vous étiez passé hier à Radio Courtoisie.
Si, oui.
Mais enfin, il va...
À peu près trois fois par semaine.
Trois fois par semaine.
Vous exagérez, j'habite même pas à Paris.
C'est alors. Pire que la vie.
Hein? Mais il peut habiter Radio Courtoisie.
Oui, en plus, il vient de Toulon. Vous venez de Toulon.
Oui. Enfin, oui, disons que j'habite à Toulon. Enfin, je fais des longs séjours à
Paris. Comment
on
peut habiter à Toulon? Moi, j'ai fait l'expérience. C'est incroyable.
Ouais, vous avez habité à Toulon, justement.
J'ai habité à l'hôtel. J'habitais à l'hôtel.
Non, mais j'habite dans les hauteurs, près de Château-Vallon. Vous voyez que c'est très correct, politiquement, mon affaire.
Bon, alors donc, Adeline, qui est le directeur du journal...
De la revue Fidélis.
De la revue Fidélis. Et qui est le futur député européen.
Non.
J'aurais aimé revenir un peu sur l'affaire Cohn-Bendit.
Oui.
En fait, on la voit dans une perspective très franco-française. Mais en réalité, ça s'inscrit dans un débat en fait allemand. Et c'est uniquement en France que c'est venu par ricochet. Parce qu'en fait, tout a commencé avec l'affaire Hans-Joachim Klein, qui était ce étudiant d'extrême gauche, qui était membre non pas de la RAF, contrairement à ce qu'on a dit, mais des cellules communistes combattantes allemandes.
Et qui vous êtes des très bons pullovers.
Et qui avait notamment servi de chauffeur à Jean-Paul Sartre quand il avait été visiter Andreas Bader à prison de Stammheim. Et son traducteur à l'époque était Cohn-Bendit. Bon. Et autre personnage, bon, Klein s'est rendu, enfin, habiter la France depuis plusieurs années. Il avait été aidé dans sa cavale financée, notamment par Cohn-Bendit, par Joschka Fischer, qui est le ministre actuel des Affaires étrangères de l'Allemagne.
Et qui, à l'époque, était un étudiant d'ultra-gauche.
Oui, et il vivait sous le même toit avec un certain nombre avec Cohn-Bendit, mais il a également vécu sous le même toit qu'une terroriste, qu'un membre de la fraction Armée Rouge, dont la fille a fait un certain nombre de révélations. Il y a eu un procès qui a eu lieu, qui doit être encore en cours, qui vient d'avoir lieu pour Klein.
Il a été condamné à 9 ans de prison.
Et il y a un certain nombre de gens qui sont apparus. Et cette espèce de passé 68-art et des années 70 est en train de ressortir en Allemagne et est utilisée par notamment les jeunes de la CDU, qui en ont assez que l'Allemagne soit toujours mise au banc des nations, et dès qu'on dit Allemagne, on dit Auschwitz et l'Holocauste.
Oui.
Voilà. Il y a eu une visite dernièrement du président ukrainien qui a dit « Vous nous refusez des crédits ». Vous êtes des salauds parce qu'il y a Auschwitz. Ça n'a plus aucun rapport, mais c'est pas grave.
Il n'y a pas beaucoup d'Ukrainiens à Auschwitz, pour autant que je sais.
Ils se sont déplacés. Et l'affaire Cohn-Bendit, en fait, a été révélée en Allemagne. Et puis après, par ricochet, elle est venue en France. Alors, il se trouve qu'on en parle un peu parce que Cohn-Bendit a été élu tête de liste comme député européen. Mais en Allemagne, il y en a des placards, des pleines pages dans tous les journaux.
Alors, excusez-moi, mais je vais me mettre à parler comme Guillaume Durand. Il ne peut pas commencer une question sans dire excusez-moi. Mais j'ai un message je crois que c'est un auditeur qui nous dit c'est très bien de commenter les événements, mais est-ce que vous pourriez rappeler succinctement de quoi il s'agit? Parce que moi, je ne sais pas ce qu'a fait M. Cohn-Bendit.
Bon,
il faudrait dire d'abord à cet auditeur qu'il y a des objets qu'on trouve il y a des magasins dans les villes. Vous rentrez et il y a des trucs, c'est du papier, c'est plié, il y a du noir dessus, ça s'appelle un journal. Oui. Donc vous en lisez un par jour, vous pouvez lire présent par exemple, c'est une idée comme une autre, tous les jours présent.
Et présent on a longuement parlé.
3, 4, 5, une.
Oui, sur Cohn-Bendit.
Alors, de quoi s'agit-il?
Depuis de bien avant l'Express d'ailleurs, nous en avons tous parlé.
C'est nationalisé.
Bien avant l'Express, c'est l'Observer, l'information allemande ont été repris par The Observer, je crois, vers le 7 février, au début février, ça a rebondi.
C'était repris par National Hebdo, mais en fait, ça existait en France. Ça existait en français depuis 20 ans, parce que c'est paru dans un livre qui s'appelle Le Grand Bazar, en français, dans lequel il y a tous les passages.
Un gros bazar, oui.
Cela dit, le livre de Cohn-Bendit, à l'époque, avait été pris surtout, essentiellement, ce que les gens en avaient retenu, c'était les attaques contre le Parti communiste.
Je me souviens absolument, c'est vrai.
C'était terriblement anti-communiste et contre-marché.
Pour répondre à cet auditeur, précisément, il faut donc dire que la presse allemande, comme vient de l'expliquer Emmanuel, et comme l'a confirmé Marika Vigalic, la presse allemande a révélé, reprise par la presse anglaise, puis ensuite en France par National Hebdo, puis présent, et puis 15 jours plus tard par l'Express, et à ce moment-là par tout l'ensemble de la presse, que Cohn-Bendit, dans un livre appelé Der Große Bazar, le Grand Bazar, avait avoué avoir eu des relations pédomaniaques avec des enfants dans le cadre d'un jardin d'enfants dont il s'occupait. Quand cette affaire a éclaté, il s'est précipité pour dire j'ai parlé, c'est pas moi qui ai fait ça, c'est pas vrai. J'ai parlé au nom, c'était de la provocation.
Mais littéraire.
Oui, mais quand on lit le texte, réellement, je vais pas le lire ici parce que je sais qu'il y a des enfants qui écoutent.
Il a dit,
c'est pas lisible.
Il a dit toutes sortes de choses, y compris que dans l'état des connaissances sexuelles qui étaient celles de l'époque, l'époque, n'importe quoi.
Alors en tout cas, il dit très bien, il explique d'une façon détaillée comment se déroulaient ces relations. Par conséquent, il ne s'agit pas du tout ni d'une licence poétique, ni d'une licence politique, il s'agit tout simplement d'un gros porc qui tripote des petits enfants et qui l'écrit dans un bouquin.
Qui se fait tripoter.
Donc, quand ça éclate 25 ans plus tard, effectivement, il ne laissait plus le gros porc gauchiste, c'est devenu un gros porc député. Et alors, évidemment, ça fait mal dans le tableau, quoi, parce que maintenant, les gros porcs sont devenus verts, alors que dans le temps, ils étaient rouges. Encore que lui, il est resté Rookmout. Mais voilà, alors... Mais
c'est exactement comme Joschka Fischer, et puis il y a Jürgen Trittin aussi, qui est ministre en Allemagne. Joschka Fischer, pour le moment, ils ont trouvé des photos sur lesquelles il y avait un casque et une barre de fer en train de frapper un flic. Bon. Mais il y a d'autres qui disent qu'il a racheté des cocktails Molotov dessus.
Un policier allemand.
Oui. Mais lui dit, je le regrette, mais je n'ai pas acheté de cocktail Molotov. Donc le jour où va sortir la photo avec le cocktail Molotov, où il est en train d'incendier, ou s'il a fait d'autres choses, incendier des bâtiments, etc. Bon, là il dira, peut-être et tout. Ils sont toujours en recul.
Mais ils appliquent la vieille technique trotskiste qui est de nier jusqu'au bout.
Je voudrais ajouter pour Joschka Fischer, et ça rejoindra sans doute les préoccupations de Michel Blanza, c'est qu'actuellement il est très attaqué en Allemagne pour une autre chose, c'est pour avoir justement, et c'est la porte-parole de l'OSCE en Allemagne, qu'il a dit Norma Braun, donc c'est quand même une autorité, d'avoir totalement manipulé les informations sur l'épuration ethnique au Kosovo pour justifier l'engagement de la Bundeswehr contre la Serbie. Ça a été dans le journal Junge Freiheit, c'était le complot. Et ça a été confirmé donc à la télévision allemande. Et là, ça risque aussi de prendre certaines proportions. D'autant plus que, assez bizarrement, le réseau Voltaire, lui, accuse l'Allemagne actuellement d'avoir, par l'intermédiaire d'associations humanitaires, financé Luceka. Donc les indépendantistes albanais, ainsi d'ailleurs que les Corses et les Basques, un certain nombre d'indépendantistes en Allemagne, ce qui me paraît assez logique, la RFA ayant hérité des réseaux de la Stasi.
Il y a une chose qu'il faut souligner aussi, je crois, dans le traitement médiatique de cette affaire du port Cohn-Bendit, c'est l'attitude incroyablement, l'incroyable attitude de connivence.
Complice, totalement.
De complicité de toute la presse. Alors, il y a un papier, par exemple, dans Le Monde du 24 février, où Jean-Luc Rosenzweig dit... Alors, quoi qu'ait pu dire Cohn-Bendit pour sa défense, tout cela n'était que hors d'œuvre. Et à l'ouverture du chapitre suivant, celui qui va mettre désormais en émoi les foules téléspectatrices, après la chasse à cour, l'alali, les tripes aux chiens, on a parfois honte d'être devant son poste.
Oui.
C'est-à-dire, c'est nous qui avons honte, parce que un journaliste a osé dire à Cohn-Bendit, Jean-Claude Narcy en l'occurrence, alors allez-vous démissionner de votre mandat européen? Et parce qu'on demande à un port scripteur de petits-enfants s'il a honte de ce qu'il a fait, et s'il va prendre les conclusions, en tirer les conclusions, c'est nous qui devrions avoir honte d'être devant notre poste. Et je crois que c'est Le Point qui dit, on est bien embêté d'avoir à, ou c'est l'Express qui dit, on est bien embêté d'avoir à attaquer un garçon aussi sympathique.
Ce sont des notables intouchables, je ne sais pas si vous vous rappelez.
Mais on en revient à la société de connivence que nous dénonçons tous et que Jean Madiran dénonce depuis très longtemps. Dans présent, avec l'arrivée aux affaires et dans la direction des médias de la même génération des activistes des années de la fin des années 60, avant mai 68 d'ailleurs, parce que ça bouillonnait
aux affaires et au gouvernement.
Bah, il y a quand même la présence de deux ministres dans une pétition.
Oui.
Kouchner et Lang, pour revenir.
On va accorder les choses un petit peu à quelque chose, parce que Kouchner, c'est très intéressant de suivre son itinéraire aussi. Mais pour revenir à Cohn-Bendit, c'est quelqu'un de totalement intouchable. Si vous vous rappelez les manifestants à Fos-sur-Mer, qui étaient c'était il n'y a pas très longtemps, toute la presse avait fait bloc aussi pour sauver Cohn-Bendit de toute contestation, qui était
une contestation.
On a perdu de vue, mais visiblement, il fait partie des gens qu'il ne faut pas toucher. Et Kouchner est à peu près dans le même cas. Le problème de Kouchner,
sauf les petits-enfants quand même qui ont le droit de le toucher.
D'accord, si vous voulez, pour Jack Lang on peut dire la même chose. Mais pour ce qui est de Kouchner, ce qui est intéressant aussi, c'est qu'il amène la drogue avec lui. Et c'est autre chose, parce qu'on retrouve des filières et des ramifications, alors là, d'un point de vue international, parce que Kouchner, c'est Soros aussi.
Ouais.
Il faut savoir que
Et Soros, c'est le milliardaire...
C'est le milliardaire accordé à d'autres milliardaires qui font des choses très curieuses.
Et qui, lui, veut la libéralisation de la
totale,
drogue.
Total, comme Cohn-Bendit, et vous retrouvez un milieu extrêmement homogène auquel il ne faut pas toucher, et dont chaque individu est intouchable, et dont l'ensemble va dans une direction bien précise.
Alors, et sans doute, monsieur, que le docteur Kouchner nous dira-t-il dans 25 ans si la drogue était pénalisée. En l'état des connaissances à l'époque, nous ne savions pas, nous n'avons pas voulu cela.
Mais en même temps, d'ailleurs, on dit que la drogue est un poison. Alors il faudrait arriver d'ailleurs à quelque chose d'à peu près cohérent d'un point de vue gouvernemental. D'un côté, la drogue est un poison, de l'autre côté, il faut la libéraliser.
Alors il y a eu d'autres supporters, il y a eu Régis Debray, par exemple, qui dit « Nous sommes scandalisés que la Vox Populi demande à Daniel Cohn-Bendit de démissionner pour avoir consigné il y a 25 ans ce que presque tout l'établissement intellectuel et journalistique de l'époque consignait des deux mains. »
C'est bien le drame.
Oui,
formidable. Alors Lang lui dit « Depuis quelques années, il y a une prise de conscience que les enfants pouvaient être victimes d'une prétendue liberté, celle d'un adulte, qui s'autoriserait des violences. » Éventuellement des violences sexuelles. Il y a depuis quelques années, la pédomanie, pour Lang, ça existe, c'est un crime que depuis quelques années. Avant, c'était normal, quoi. Ça, c'est un mensonge incroyable.
Ils se sont lancés dans la libération sexuelle. Et en fait, dans leur logique, il n'y a pas de raison de s'arrêter devant la pédophilie. et de faire cet interdit-là. Mais je crois qu'ils ont rencontré à un certain moment, enfin, une réaction d'un instinct naturel qui, devant le comble, en quelque sorte le comble de l'horreur, les a obligés à réagir.
C'est aussi le procès d'une génération, parce
Adeline.
Que Cohn-Bendit et d'autres sont des gens qui ont été la première génération en tant que telle d'adolescents qui n'étaient pas en activité professionnelle. Il y a quand même un phénomène d'après-guerre qui est lié au baby-boom et à l'évolution de la société qui fait que est apparue une nouvelle classe de gens dont la seule particularité était l'âge. Alors c'était plus vraiment des enfants et donc c'était n'étaient pas non plus des apprentis, c'était d'éternels jeunes, quoi.
C'était le début du jeunisme.
Voilà, ça a été le jeunisme. Alors, à l'époque, jeune ne voulait pas dire immigré. C'était
D'ailleurs, il serait intéressant de voir ce que donnerait maintenant un mai 68. Mais alors, avec les populations qui seraient impliquées.
Ils jetteraient des marshmallows.
Ce serait. Mais alors, toujours est-il que ces gens-là ont revendiqué de prendre la parole parce que ce n'étaient plus des enfants, ce n'étaient pas non plus des adultes. Ils ont pris la parole. Mais et il faut reconnaître d'ailleurs qu'ils l'ont pris avec. Bon, même s'il y avait des formes, comment dirais-je, totalitaires, enfin communistes là-dedans, il y avait un certain panache. Ma génération qui vient après, moi je suis né en 60, a toujours regardé avec un peu d'admiration les frères aînés qui avaient réussi à prendre la parole.
Vous n'avez pas eu assez de fessée quand vous étiez petit garçon.
Non, ceci étant dit, ce qui se passe avec cette affaire qui revient nauséabond,
là, pardon, qui revient à la surface. Pardon de vous couper un instant, parce que je voudrais ajouter à ce que vous dites un point de détail qui est méconnu aujourd'hui. C'est que le début de 68, le tout début de 68, c'est une affaire de petites culottes.
Oui, voilà, absolument.
C'est Cohn-Bendit qui,
on va aller voir les
qui
filles.
Connaît très très bien la fille d'un ministre à l'époque, qui est extrêmement intime avec elle, et qui un jour, lors de la visite de ce ministre à Nanterre, lui dit « Monsieur le ministre, on voudrait pouvoir avoir accès au dortoir des filles ». Et le ministre qui sait à quoi s'y tenir, lui dit, en tout cas, en ce qui vous concerne, vous, je crois que vous n'avez pas trop de problèmes de ce côté-là, forcément.
Enfin, il lui dit pas ça exactement, quand même.
Mais en gros, c'est ça.
Enfin, c'est François Missoff qui vient inaugurer la piscine de Nanterre.
Et il lui dit, vous n'avez qu'à vous plonger dans la piscine.
Et il lui dit, Cohn-Bendit lui dit, vous n'avez, il n'y a aucun passage sur la sexualité dans le rapport sur les étudiants. Et l'autre lui dit, je vous conseille de vous plonger dans la piscine. Et à ce moment-là, à la suite de quoi scandaliser, il entretient une agitation, et le 22 mars, ils occupent les locaux de Nanterre, ce qui est le déclencheur de 68, puisque ça s'appelle les enragés, et c'est le mouvement du 22 mars. Mais c'est ça le déclencheur.
C'est ça. Donc c'est déjà une histoire de fesses, hein. Il faut bien être clair.
Oui, mais
toute cette révolution.
On a oublié le petit livre rouge de la sexualité, etc. Mais moi, ce qui est quand même sidérant, bon, c'est de voir, bon, maintenant là, on parle un peu de monsieur Cohn-Bendit, mais personne n'est sidéré par le résultat du questionnaire qui a été rempli par monsieur Philippe Seguin, pour candidat à la mairie de Paris, et qui est disponible sur le site internet du centre gay et lesbien.
Oui, ça, il faut le lire, bon, c'est formidable.
Ou quand même, Philippe Seguin ne s'oppose pas à la création maintenant d'un rayon pédophile homosexuel, (e) et lesbien, dans les bibliothèques publiques accessibles aux enfants.
Non, mais ça, c'est...
On met en cause Daniel Cohn-Bendit pour des trucs qu'il y a 25 ans, parce qu'il a écrit ça, mais personne ne met en cause Philippe Seguin pour écrire des choses pareilles.
Mais Philippe Seguin, lui, bon, il est à la remorque de la gauche, ce qui est naturel dans un régime comme celui-là. Mais pour finir avec cette génération-là, elle a donc revendiqué une liberté, elle a revendiqué de prendre la parole. Et pourquoi faire? Pour évidemment dire des âneries quand on est jeune comme ça.
Quand on dit pas des âneries quand on est jeune, on le fait quand on est vieux.
Il faut
s'en débarrasser de tout.
Et en fait, il y a cette espèce d'immaturité qui a été entretenue, ce jeunisme a entretenu une immaturité, y compris une immaturité sexuelle. La revendication homosexuelle, elle a évidemment surgi il y a quelques années, simplement, elle datait de 68. Il y avait déjà des revendications homosexuelles à ce moment-là. Le respect dû aux différences et tout. Et donc, ce qui se passe avec le pédophile Cohn-Bendit, ça procède de cette espèce d'immaturité où on ne veut pas se déclarer sexuellement bien identifié, à savoir assumer sa virilité ou sa féminité, etc. Tout ça, c'est lié. Donc, effectivement, aujourd'hui, quand on voit... c'est le procès de toute une génération d'une époque. Quand on voit Jacques Lang, ministre de l'Éducation nationale, qui s'occupe donc d'enfants, qui a été signataire d'une pétition où il disait on ne peut quand même pas condamner à la prison des gens qui ont échangé des caresses et des baisers avec, uniquement pour des gens qui, pour des caresses et des baisers. Les caresses et les baisers, il faut quand même préciser que c'était sur une petite fille de 12 ans. C'est-à-dire que c'était 5 de leurs petits camarades, là, qui ont été, enfin, des camarades de l'âge de Jacques Lang, qui avaient été poursuivis pour avoir commis ce genre de choses sur une gamine de 12 ans. Alors, il y a quand même ici quelques pères de famille, je suppose. Enfin, c'est effarant de voir que le ministre de l'Éducation nationale qui a été signataire d'un truc comme ça. C'est,
avec Kouchner,
c'est incroyable.
Est-ce qu'il y a des messages sur la question?
D'ailleurs, on demande sa démission, enfin bon.
Non, le message que j'ai, c'est...
À une autre époque, on allait en prison.
Je pense que c'est
ça,
un fonctionnaire de police qui n'est pas content, parce que je ne comprends pas pourquoi sur Radio Courtoisie on balance le nom d'un fonctionnaire de police. Ce sont généralement des procédés de la presse d'extrême-gauche, oui, camarade, qui, elle aussi, balance les noms des policiers et se garde bien de donner le nom de l'auteur de l'infraction pénale. Alors d'abord, il ne s'agit pas d'une infraction pénale, il s'agit d'une contravention pour non-affichage du ticket horodateur. Et je donne le nom de cette fonctionnaire de police, parce que pour moi, maintenant, il faut donner les noms des magistrats, des fonctionnaires, des policiers qui font des conneries. C'est inadmissible de menacer d'une interpellation à domicile quelqu'un pour une histoire de ticket au rodateur quand on est policier à Montreuil, parce que Montreuil, c'est une des villes de la banlieue parisienne les plus agitées par une délinquance dont je ne dirai pas plus, étant donné qu'il y a des lois contre ça maintenant, et que vraiment, c'est se foutre de la gueule du monde de menacer un citoyen d'aller l'arrêter à son domicile parce qu'il n'a pas affiché son ticket au rodateur, alors qu'on vit dans une ville qui est littéralement envahie par des voleurs, des violeurs et des trafiquants de tout genre. Hein. Faut quand même pas se moquer du monde à ce point-là. Donc je donne le nom, voilà, si cette personne n'est pas contente, elle a qu'à faire son métier correctement, comme ça on n'aura pas obligé de donner son nom pour les conneries qu'elle fait.
Et de toute façon, il n'y a rien de scandaleux de donner le nom d'un fonctionnaire qui est au service du public.
En plus, il est au service du public et son nom, il l'a.
Et même théoriquement, il y a quelques années, il y avait une loi qui faisait...
Il a affiché son nom, normalement.
Voilà. Oui, normalement, c'est ça.
Alors,
enfin, sujet pour rester dans la même gamme, on peut rappeler quand même que les Verts présentent sur la liste qui présentent dans le 17e, en numéro 2, il y a un médecin transsexuel brésilien. Et s'appelle Cabral. Et la liste.
Vive la révolution.
La queue de liste est tenue par une La queue de liste est tenue.
Qui tient la queue?
Par une actrice pornographique issue de nos passants.
Ah, mais bien sûr.
Mais comme en Italie, alors.
Qui vient de l'extrême gauche, qui s'appelle Ovidi. Bon, et des exemples comme ça, on en a des dizaines, puisque la quasi-intégralité des têtes de liste dans le 4e arrondissement sont du même acabit.
On dit que quelquefois le monde, enfin le cinéma porno est plutôt une pépinière de Nesbrock. On dit souvent ça, non?
Je ne sais pas, je ne fréquente ni les pépinières de Nesbrock ni le cinéma porno, donc là-dessus ma science est mince. Bon. Alors Victoria Alexis.
Comment se fait-il qu'on ait attendu 20 ou 30 ans pour dénoncer les ignominies de Cohn-Bendit?
Parce qu'on ne sait pas lire. Voilà, c'est ce que disait tout à l'heure Marie-Camille, c'est parfaitement vrai, et ce que dit aussi Emmanuel Ratier. On ne sait pas lire. Je me souviens quand Le Grand Bazar est paru, on est tous restés braqués sur le fait que Cohn-Bendit a claqué le Parti communiste. Et on n'a pas lu le reste.
Mais non, mais c'est paru aussi, tout ça.
Dans Spectacle du Monde, en 68,
c'est paru. Il y a une formule du regretté Henri Rambaud définitive à ce sujet. L'inédit aujourd'hui, c'est l'imprimé. L'inédit aujourd'hui, c'est même.
Non, parce qu'on rappelle toujours bon cette fameuse pétition dont parlait Marie-Adeline sur cette pétition de 76 ou 77 à propos d'un procès. Bon, mais dans le même genre, il y en a au moins une douzaine. Oui. Bon, il suffit de prendre le numéro de Libération aujourd'hui, un peu gêné aux entournures, qui présente un certain nombre de photos de numéros qui ont une vingtaine d'années, ou avec des petites annonces, où c'est des gens qui passaient des petites annonces pour acheter des enfants.
Ouais.
Bon,
ouais.
Et toute une série de trucs comme ça, où il y a des photos avec...
Alors Libé, ils sont drôles parce qu'ils font leur repentance, ouais. Mais en même temps... Il coupe l'herbe sous les pieds des bons frères.
Non, c'est très habile.
Effectivement, il y a beaucoup de gens qui se conduisent comme s'ils ne savaient plus lire et qui ne croient les choses que lorsqu'ils les voient à la télévision. Mais ça a été l'affaire de la Francis de Mitterrand, de Mazarine, de tout ce qu'on veut, ça passe tout le temps.
Même de l'attentat de l'Observatoire.
Même de l'attentat de l'Observatoire, et ça ne se passe pas avec ceux qui veulent bien lire la presse qu'il faut lire.
Et ils nous traitent de menteurs. Oui. comme la dame là, il y a 3 semaines qui m'avait traité de menteur parce que j'avais dit que je sais plus ce que j'avais dit d'ailleurs.
Que, mais quelque chose qui n'était pas à la télévision.
Qui n'était pas un mensonge. C'était pas à la télé.
Il y avait
910 Kurdes qui étaient arrivés sur la place de Bouloris.
Oui.
Et ça, on l'a pas vu à la télévision.
On va y revenir à ça. Alors, Victor, il y a des questions, des réflexions.
Une cousine habitant l'Allemagne se réjouit que nous ayons hérité de Cohn-Bendit et qu'il ait arrêté ses activités chez elle.
Oh, mais vous inquiétez pas, on va vous le renvoyer.
C'est une erreur d'attaquer Cohn-Bendit uniquement sur les faits. Il ne faut pas accepter non plus la seule idée de provocation. Il faut l'attaquer sur ce qui est bien plus grave, la banalisation et l'apologie de la pédomanie.
Mais non, mais...
À 16h30 sur Arte, j'ai eu la surprise en zappant de voir des gens qui descendaient Cohn-Bendit, disant textuellement, malgré cela, mais de là à l'accuser de pédophilie, c'est dégueulasse.
Oui, c'est comme c'est vrai, c'est effectivement la vérité est toujours dégueulasse.
Non, mais c'est comme Bill Clinton qui disait, je sais pas quoi, il n'y a pas eu pénétration, donc il n'y a pas eu acte
sexuel. Il n'y a pas eu d'acte sexuel.
Voilà, oui. Bon, bah, c'est exactement le même cas.
Bon, à la différence près que l'affaire Clinton est proprement scandaleuse, parce qu'on n'a pas à se mêler de la vie privée de. Non, je veux dire, il ne faut quand même pas comparer ce type d'action, de délit commis par Cohn-Bendit et le fait que Clinton ait entretenu des relations intimes avec. Enfin, c'est incroyable qu'on ait pu embêter ce type-là pendant 2 ans, qu'on ait failli qu'on l'ait menacé d'impeachment sur une affaire. Mais non, le mensonge, il est obligé de mentir parce qu'on est en train de le.
De mentir.
Mais oui, non, mais si, je veux dire, on le harcèle sur une affaire comme ça. Non, mais attendez, non, mais Serge, on harcèle Bill Clinton sur une affaire comme ça. Et Bill Clinton se défend maladroitement et commence par dire c'est pas vrai, j'ai rien fait. Bon, enfin, déjà, le seul fait de l'avoir agressé là-dessus était intolérable. Qu'est-ce que ça pouvait nous faire que Bill Clinton ait entretenu des relations avec une stagiaire de la Maison Blanche
dans le bureau ovale.
Mais alors,
bureau ovale,
que ce soit dans, dessous, dessus, ça nous est complètement égal. Ben ça n'a rien à voir avec la pédophilie, quand même.
Adeline, vous, ça vous est égal. Moi, ça m'intéresse extrêmement. Non, je dirais en plus, c'est pas vrai. Je plaisante, mais au fond, c'est la même chose. Et je vais vous dire pourquoi c'est la même chose.
Et ça aboutit
parce
à
que
Rich,
c'est pas vrai.
Parce que voilà. Non, mais je vais vous dire pourquoi c'est la même chose. Voilà. Parce qu'une petite stagiaire à la Maison Blanche, si le président de la RIP des États-Unis l'appelle et se livre sur elle à ce conseil, qu'est-ce que vous voulez qu'elle fasse? Elle est exactement aussi dénuée de moyens de défense qu'une gosse de 12 ans devant un type vicieux. C'est exactement
c'est
la même chose.
Mais c'est pas vrai. Elle était parfaitement consentante. C'était une intrigue entre eux.
Enfin,
on vit vraiment à une époque de Madame sans gêne, quoi. On se mêle de la vie privée des gens.
Bah oui,
non, je ne suis pas du tout d'accord. Parce que dans la mesure où ces gens étalent leur vie privée et familiale.
Non,
enfin, on a vu. Avec toutes les histoires de Clinton qui a tout basé sur la présence de sa femme, de sa fille, du chien, du chat Sox dont il s'est débarrassé maintenant parce qu'il n'était plus, il n'en avait plus besoin, ce que je trouve absolument écœurant. On me permettra de le dire, encore pire que l'affaire Lewinsky.
Du président des États-Unis d'Amérique,
bon,
si vous savez ce que
dans
je
dans la mesure
de
où on s'expose et où on vit des médias, il ne faut pas s'étonner que les médias s'intéressent à votre vie privée.
Non, c'est
ces gens instrumentalisent les médias. Oui. Quand ils sont à leur tour instrumentalisés par les médias, ça me paraît tout à fait normal.
Ils montrent leurs femmes à tout propos, ils veulent pas qu'ils
reçoivent les médias dans leur salle de bain.
Hein? Exactement.
Ils se mettent à poil devant les médias, ils y consentent, alors le jour où on les photographie, quand ils y consentent pas, ils sont pas contents.
Non, mais c'est symptomatique du faucheton qu'était Clinton, et on l'a encore constaté avec les amnisties, les grâces qu'il a données, avec la grâce de Mark Rich, qui a pris main des signes, plus la grâce des 4 rabbins qui ont créé une fausse école assidique.
Je vois vraiment pas le rapport.
Si vous mentez pour des petites choses, vous mentez forcément pour les grandes.
Mais en tout cas, je n'aimerais pas être secrétaire à Fidelis. C'est tout ce que je peux dire.
Nous déconseillons.
C'est parce que vous êtes un homme, Serge.
Nous déconseillons aux familles de
me confier les jeunes filles tenir le secrétariat de Fidelis.
La parole aux auditeurs.
Hier soir sur France 3, ils ont fait l'apologie d'une manif genre Gay Pride. Ils ont fait l'apologie d'une manif genre gay pride et ils ont dit que Cohn-Bendit n'était pas venu. Ils étaient gênés de ce qu'il a, par ce qu'il a fait. Sur France 2, à 22h30, ça se discute. Le sujet est « La sexualité a-t-elle un âge ?»
Non mais c'est,
on y arrive.
C'est tout le temps...
Quoi
À un âge. Non, la prochaine revendication.
C'était à une âme.
Non, non, la prochaine revendication sexuelle, c'est la pédophilie. C'est très clair, ça. On a déjà le mariage des homosexuels et la possibilité d'adopter bientôt des enfants par les homosexuels. La prochaine revendication, ce sera de pouvoir te toucher à des enfants.
Je vous rappelle qu'une des premières décisions législatives qui a été prise par le gouvernement socialiste, c'est en 82, 83, ça a été d'abaisser l'âge de la majorité sexuelle à 14 ans. Déjà. Donc,
je crois que Giscard l'avait abaissé à 16 ans.
Peut-être, oui.
C'est l'âge auquel se mariait Marie-Antoinette. Ouais, je veux dire, faut pas
non, mais ne confondons pas tout non plus.
Bon, allez
on Victoria. Cohn-Bendit est défendu par les pétroliers, ce qui fait qu'il est intouchable.
Cohn-Bendit,
silence dans le rang. Cohn-Bendit, ce phénomène mériterait qu'on lui... qu'on lui fasse cuire... C'est une dame qui dit ça, tiens. Cohn-Bendit, ce pédomaniaque, mériterait qu'on lui fasse cuire sa saucisse de Francfort à la flamme du soldat inconnu.
Ah oui, parce qu'en plus, il avait compissé la flamme du soldat inconnu. Il faut rappeler ça parmi ses actes...
Sexuels.
Il faut toujours qu'il la sorte, quoi, finalement.
Oui.
La pédophilie est devenue passible des tribunaux le jour où on s'est aperçu qu'on pouvait s'en servir contre l'Église.
Contre eux ?
Contre l'Église.
Non, c'est pas sérieux comme argument. Ce qui est vrai, en tout cas, on remarque une chose. En ce moment, il y a 4 affaires qui concernent le sujet. Il y a l'affaire Cohn-Bendit, où, par exemple, Marianne dit, Jean-François Kahn dans Marianne dit, « Ouais, l'affaire Cohn-Bendit, attention, c'est du touchy-toucha. » Alors ça, c'est pas grave du tout. Il y a l'affaire de l'instituteur de Cormeilles. Alors, c'est pas de la faute de l'instituteur tripoteur, c'est de la faute des parents qui voulaient pas croire leurs enfants quand les enfants rentraient à la maison en disant « l'instituteur m'a fait ça ». Il y a la troisième affaire, c'est l'affaire de Mgr Piquant. Mgr Piquant qui n'a pas dénoncé curé qu'il avait entendu en confession. Alors ça, c'est le scandale.
C'est au moins l'évêque qui est coupable.
Ah, là, c'est l'évêque qu'il faut... pratiquement tous les évêques de France. Et puis, il y a un quatrième truc.
Sauf Gaillot, qui lui était au courant, mais il ne peut pas être critiqué.
Lui, il n'est pas critiquable.
Oui, mais Gaillot est une icône, comme Kouchner et comme Cohn-Bendit. Oui.
Mais il y a une autre icône dont je vais parler, parce que moi, je commence à avoir les oreilles qui chauffent avec cette histoire. J'aimais bien le chanteur, parce que c'est vrai qu'il avait un vrai talent, mais M. Trenet, dont on nous bassine depuis qu'il est mort, pratiquement, c'est le plus grand Français qui ait jamais vécu dans ce bas monde. Quoi. Il a la Croix de Guerre, la Légion d'honneur, la médaille militaire, le million d'éléphants, l'American Red Cross, l'Ordre du Mérite, il a tout, il est le plus grand poète, le plus grand musicien. C'est un scandale qu'on ne l'ait pas reçu à l'Académie française et tout. On a raconté toute sa vie en long, en large, en travers, en profondeur, en diagonale. Et bon, il y a deux choses. Il y a une chose qu'on n'a pas dite.
Deux.
Alors allez-y.
Non, il y a quand même ses concerts pour la LVF et ses concerts à l'ambassade d'Allemagne.
Oui, ça.
En 43-44. Ça, on n'en a pas parlé.
Alors il y en a trois donc. Il y a celle-là. Il y a le fait que, à la grande époque, comme un journal avait cru malin de dire Monsieur Trenet, dont le véritable nom, le juif Trenet, dont le véritable nom est Netter. N-E-D-T-E-R, il avait envoyé une lettre enflammée pour dire qu'il s'était jamais appelé Netter et qu'il n'était pas juif du tout. Ce qui est très mal. Alors, on est bien d'accord, parce que celui qui se défendait de juif, c'est forcément un antisémite. Mais il y a une troisième chose, alors là, dont on n'a absolument pas parlé du tout, et pourtant c'est patent, c'est que M. Trenet, à la fin des années 60, a passé 2 ans en tôle pour avoir organisé des partous pédomaniaques dans sa maison. Vous avez l'air de ne pas vous souvenir de ça.
Deux ans. Il les a fait.
Il n'est peut-être pas resté 2 ans, mais il a été condamné.
Il a été condamné.
Et il est resté fort longtemps.
Il est parti au Canada pour se faire oublier.
Il est parti au Canada.
Non, mais Serge.
Pour se mettre un peu de neige.
Dans le numéro.
Non, mais je vois que Adeline ne veut pas qu'on s'occupe de la vie privé
non, j'ai déjà non, dit non, qu'on mais... peut pas comparer Clinton avec une charmante secrétaire. C'est les rugades et la pédophilie qui est criminelle quand même. On peut quand même pas tout mettre sur le même plan.
Non, mais pour revenir à Trenet, je voudrais quand même signaler que dans le prochain numéro de Rivarol, celui qui sera en vente vendredi sous le titre Les Diagonales du Fou Chantant, il est quand même C'est joli, hein, le titre est joli. Il serait les questions justement, enfin, de ses concerts, des ennuis qu'il a eu avec la justice pour des affaires de mœurs avec des mineurs et de l'accusation qui avait été portée contre lui. Et je précise que c'était dans le bulletin de l'Institut. De l'Institut des questions juives et ethno-raciales dirigé par Montandon.
Qui n'était pas vraiment un journal de la presse juive. Voilà. Hein, là, c'est clair.
Voilà.
Là, c'est...
Voilà.
Ouais. D'autres questions ?
Avez-vous entendu parler de la dernière campagne de la LICRA ?
Ah oui,
Attendez, campagne publicitaire où il est indiqué sur des affiches que la France est un pays d'apartheid.
Oui, nous en avons parlé dans le dernier numéro ou le précédent.
La libération de la drogue aurait l'avantage de ruiner les cartels et les mafias qui se livrent à ce trafic. Mais en ce qui concerne, après 30 années de journalisme fait divers, je suis persuadée que la drogue en vente libre ne fabriquerait pas un drogué de plus. Comme la légalisation de la vente de l'alcool aux États-Unis n'a pas fait un alcoolique de plus.
Je suis à peu près d'accord. C'est la thèse, c'est Maître Casanova qui...
Non, mais c'est les libertins.
Caballero.
C'est Madeleine.
Caballero, pardon.
Non, mais c'est Madeleine. Oui, c'est les antiprohibitionnistes, mais Madeleine est exactement...
Caballero, qui est d'ailleurs un des avocats des prévenus du sentier. Signal.
Attendez, on peut quand même pas, on peut pas entendre n'importe quoi. On peut pas comparer la drogue et l'alcool d'abord. D'autre part, quand vous vendez en vente libre de l'alcool, si je vais dans un troquet et je commande un whisky, je suis pas ivre pour autant. Si vous fumez un pétard, vous êtes déjà parti. Donc faut pas non plus inventer n'importe quoi.
Comment vous le savez?
Parce que je le dis, j'ai voyagé dans des pays lointains dans ma jeunesse estudiantine, et donc je sais de quoi je parle. Effectivement, je peux le dire. J'ai eu 20 ans comme beaucoup de monde, comme Clinton. Et donc je sais très bien l'effet que produit un pétard, qui est bien plus agréable que l'alcool, parce que l'alcool rend malade, tandis que la marijuana
rend fou.
Non, mais
ça,
l'alcool me rend
malade.
Non, mais l'alcool, c'est un aliment.
Ça rend sous, mais ça rend pas malade du tout.
Non, mais on peut pas comparer les deux.
Quand on boit, c'est pour le plaisir. Quand on fume de la drogue, c'est pour être sous. C'est très différent.
Est-ce que vous voulez des nouvelles du palais de justice dont je sors?
Une fois encore, Jean.
Ben, pour le moment, j'en sors. C'est déjà bien. Poursuivi un appel par le centre gay et lesbien. Et la... En appel, c'est eux qui ont fait appel, parce que j'ai quand même été relaxé par le tribunal qui ont trouvé un peu forte quand même leurs histoires de Dieu est une lesbienne noire et autre chose semblable. Mais la chose principale pour laquelle ils me poursuivent, c'est qu'ils m'accusent de les avoir diffamés en ayant l'air d'insinuer qu'il pouvait y avoir un rapport entre l'homophilie et la pédophilie. Ils m'ont même accusé d'avoir créé ce mot d'homophilie, comme vous le savez, pour le distinguer d'homosexuel. L'homosexuel, ça le regarde. L'homophile, c'est le militant qui demande la reconnaissance institutionnelle, juridique, etc., etc. Bien. Et ils m'accusent d'avoir inventé homophilie pour évoquer la pédophilie. Et il est interdit. Ils veulent faire interdire. Ils ne sont pas arrivés. Ils ne seront peut-être pas cette fois. Après, à ce qu'on étudie, les rapports sous couleur de crime d'homophobie, qu'on étudie les rapports éventuels entre l'homosexualité et la pédophilie. De même que le crime de xénophobie interdit qu'on étudie les rapports éventuels, qu'on parle des rapports éventuels entre l'entrée massive d'étrangers la criminalité qui augmente. Alors, donc voilà là, en action, dans ce procès qui est au centre de leur stratégie, selon, il ne faut pas oublier, le manifeste du 3 décembre 99, où 24 organisations homophiles ont signé ce manifeste, plus, grande nouvelle, la Ligue des droits de l'homme. Ce qui montre bien que on peut très bien être homophile sans être homosexuel, et qu'on peut être quantité d'homosexuels qui sont pas homophiles, qui se manifestent pas.
Est-ce qu'il n'y aurait pas moyen d'instrumenter une action contre la Ligue des droits de l'homme, parce qu'il y a une exclusion intolérable là au nom de la parité, et maintenant il faut qu'ils changent leur titre, il faut qu'ils s'appellent la Ligue des droits de l'homme et de la femme.
De la personne.
Ah, de la personne.
Oui, de la personne.
LDP.
Oui.
C'est embêtant.
Enfin, voilà. Donc, ça a été sur la pédophilie, ils sont extrêmement sensibles, et ils sont extrêmement sensibles pour au stade actuel, parce que je pense, comme Adeline, que la prochaine, peut-être pas immédiate, mais la prochaine revendication, mais de biais, d'une certaine ou d'une autre manière, ce sera la revendication de la pédophilie. Actuellement, la situation est la suivante. C'est que toute relation sexuelle consentie de part et d'autre est normale, est considérée comme normale. Mais qu'on ne considère pas qu'il y ait un consentement au-dessous de 15 ans, un consentement valable. Mais il suffira d'abaisser l'âge auquel le consentement est valable.
C'est ça, oui, bien sûr.
C'est ce qui a été fait en Angleterre.
C'est
ce qui a été fait en Angleterre par le gouvernement Blair.
Mais le principe, qu'il n'y a pas d'autres règles qui s'imposent à la sexualité que le consentement réciproque. Voilà, c'est le faux principe dont tout le reste dérive.
Alors, D'autres questions, puis on va clore ce dossier.
Une auditrice de Bordeaux nous communique. Sur France 3 Aquitaine, M. Noël Mamère, député maire de Bègle, vice-président des Verts, a déclaré hier « Les attaques contre Dany Cohn-Bendit sont ignobles. Les Français devraient balayer devant leur porte et s'attaquer au racisme, qui est aussi grave que la pédophilie. »
Au quoi ?
Au racisme !
D'ailleurs, l'homophobie est candidate à entrer dans la loi contre le racisme. Quand vous serez condamné pour homophobie, on dira vous avez été condamné par la loi, sur la loi contre le racisme.
Ah ben alors je peux y aller, moi, ça y est.
Non, je crois que Adeline disait que le prochain pas serait la reconnaissance de la pédomanie. Je pense que ça ne sera pas ça, ça sera déjà les lois condamnant un article 24 ter de la loi sur la liberté de la presse condamnant les écrits homophobes.
Ah oui, mais ça, c'est une revendication qui est déjà...
C'est à peu près sûr, ça passera très vite.
Je crois qu'Adine a parlé de la prochaine revendication, parce que la revendication contre l'homophobie, elle est déjà publique, elle date dans leur stratégie annoncée, les poursuites contre présent, qui datent de 99, ont pour but stratégique dit que c'est par là qu'on va introduire une jurisprudence comme quoi on condamne l'homophobie ou qu'on va faire la preuve que l'on n'obtient jamais gain de cause et donc qu'il faut la loi. Voilà. Et les relaxes dont nous bénéficions jusqu'ici servent leur dessein. Mais ce qui n'est pas une raison, nous, pour que nous allions nous faire condamner.
Je rappelle d'ailleurs que l'une des propositions tentant à criminaliser l'homophobie émane de M. Léotard.
Et l'autre, monsieur...
Et de séminariste et de monsieur
Bérou. Voilà. Les deux
grands
premiers.
Chrétiens.
Oui.
Bon, on va passer à un autre sujet, mais pour faire la liaison...
Bertrand Delanoë, peut-être, comme sujet suivant.
Mais non, ça ne changerait pas vraiment. Donc, on va vraiment changer complètement. Mais je voudrais simplement dire que l'auditeur que je taquinais tout à l'heure, en disant qu'il y a des magasins dans lesquels on trouve des bouts de papier et que ça s'appelle des journaux, il me dit « Je ne lis que le Libre Journal de la France Courtoise à laquelle je suis abonné depuis le numéro 1. »
Ah, voilà. Bravo, Beckett. Encore un abonné perdu. Mais non, il vous aime.
Je ne sais pas s'il m'aime, il m'aime peut-être, mais là, c'est... Non, mais c'est une taquinerie, il l'a bien compris. L'autre sujet, qu'est-ce à savon ? On avait dit... Alors, les Kurdes, on en parle quand même, rapidement. Peut-être qu'avant, je vais me tourner vers Michel Blanza, sur les Kurdes.
Sur l'Asie centrale qui débarque, mais ça fait très, très... Moi, je relis ça pour ceux qui ont déjà entendu ici à ce micro ou qui lisent le Libre Journal. Je pense que le grand projet qui concerne tout le monde maintenant, c'est la route de la soie. Je pense qu'il y a des projets commerciaux gigantesques, de milliards de dollars, qui amènent les routes commerciales, qui retrouvent les routes commerciales traditionnelles, qui les élargissent, qui mettent en contact maintenant l'Europe et l'Asie centrale, et l'Asie. Et que le gros problème que l'on a à partir de maintenant, déjà, c'est les Turcs.
Qui sont le verrou turc
et turcophone et assimilé et inassimilable, enfin tout ce que vous voulez, mais c'est enfin le problème est il faut le dire, il y a un moment où il faut quand même l'expliquer, pas faire comme Paul-Marie Couteau qui au départ commence à dire que il est pour l'Europe et qui après dit qu'il faut maintenant anticiper et aller au devant des Turcs. Non, le problème est un problème terrible d'un point de vue de civilisation. C'est la vraie chose qui peut tout faire exploser chez nous.
Alors, est-ce que vous croyez à la l'hypothèse qui a été avancée très rapidement selon laquelle l'envoi des Kurdes serait un petit cadeau de la Turquie pour nous remercier de la reconnaissance du génocide?
Je l'ai écrit dans l'éditorial du dernier numéro. C'est ce que j'ai téléphoné le samedi matin à Françoise Pichard. Donc après avoir entendu ça à la radio, pour parler, j'ai dit je ferai l'édito là-dessus. C'est un coup, c'est la riposte à la reconnaissance du génocide, de ce qu'on appelle très bêtement génocide arménien.
Vous pouvez plus dire ça maintenant, il est reconnu. C'est le génocide.
Non, ce que je dis, c'est que l'expression génocide arménien me paraît sémantiquement stupide. C'est le génocide contre les Arméniens. Ça n'est pas le génocide arménien.
Enfin, on dit génocide juif de la même manière.
Bah oui, mais enfin, ça n'est pas.
Maintenant,
plus...
on dit le français est devenu une langue approximative.
Oui, très approximative. Et je pense que c'était à la fois et que en plus les bombardements et plus on déstabilise l'Irak et plus on en aura aussi également ça.
Maintenant, les épisodes, voudrais dire que les épisodes successifs et divers qui méritent tous d'être analysés et caractérisés selon leur réalité qui est toujours intéressante, ne sont finalement que les épisodes de la grande question que les pays riches à démographie faible sont destinés tôt ou tard et de quelque manière que ce soit à être envahis par les pays pauvres à démographie puissante. Et que selon la formule d'un écrivain contemporain, la terre appartient à ceux qui y vivent.
Pourquoi vous ricanez dans votre coin, Adeline ? Écrivain contemporain, c'est ça qu'il veut. Emmanuel, une réflexion là.
Oui. C'est la question est quand même, c'est quand même ça.
Alors, c'était pas, si vous me permettez, une délicatesse d'auteur. J'avais dit le sol est au vivant, parce qu'à l'époque on parlait droit du sang, droit du sol, etc. J'avais dit le sol est au vivant.
Mais je citais de mémoire. Mon
oui,
mais vous... la lettre était bien entendu beaucoup plus frappante. Va de soi.
Oui, donc dans l'affaire des, tout le monde parle des Kurdes dans cette affaire. Enfin bon. Pour revenir purement à cette affaire, ce qui est intéressant, c'est que ce sont des Yazidis.
Voilà, c'est ce que je voulais dire.
Alors, il se trouve que...
c'est capital.
Je ne suis allé qu'une seule fois en Irak, et quand je suis allé en Irak, je suis allé voir les Yazidis.
Ça ne m'étonne pas de vous.
Parce que c'est une population qui vit absolument au nord de l'Irak.
Et enfin, ils vivent en nord de l'Irak, ils vivent en Turquie, ils vivent en Syrie, voilà. Ils vivent
en
Iran.
Un petit peu en Bretagne.
Ils vivent en Iran, ils vivent en Arménie.
En Alsace. Et la principale communauté en Europe est en Allemagne.
En Allemagne, oui.
Ce sont des gens qui ont beaucoup... On l'a vu un peu sur les films qui ont été présentés à la télévision, même si c'est pas évident parce qu'ils sont habillés. Ce sont des gens qui sont beaucoup moins typés racialement, enfin qui sont beaucoup moins... qui se raccrochent beaucoup moins aux populations arabes. Et qui sera beaucoup plus aux Indo-Européens.
Ce sont des gens qui sont... Ne ressemblent pas aux Arabes.
Oui, mais eux-mêmes ne se reconnaissent pas parmi les Kurdes. Et ils sont pratiquement en guerre avec les Kurdes.
Ah, ils sont sérieusement en guerre.
Ils sont tout le temps attaqués, puisqu'en fait, ils pratiquent une religion cachée.
Voilà.
Bon. L'Irak et comme les religions notamment ont été protégées par le Baas, qui s'est appuyé sur les minorités religieuses, il y a à peu près 17% de chrétiens en Irak, et ils n'ont qu'une peur, c'est que Saddam Hussein s'en aille. Bon. Et il y a toutes sortes de petites religions qui sont issues souvent avant le christianisme, avant l'islam, etc. Bon. Et les Yazidis se rattachent complètement à une de ces églises et ils pratiquent des cultes secrets exactement comme le faisaient les Maranes au Portugal.
Exactement.
C'est-à-dire qu'officiellement, on dit qu'ils se rattachent à l'islam, mais en réalité, ils ne se rattachent pas du tout.
C'est une religion satanique. C'est un culte satanique.
Oui.
Et c'est très, très intéressant.
Je croyais que c'était zoroastrien.
C'est vague. On dit que c'est d'origine zoroastrienne. En réalité, tout leur culte est un culte satanique. Ils adorent le dieu Pan,
Le diable.
Qui est en réalité l'incarnation de l'ange du mal, enfin de l'ange de la révolte. Et leur idée, c'est que Dieu a pardonné à Satan, et qu'ils sont entendus, et que Dieu s'occupe des affaires du ciel, et que Satan s'occupe des affaires de la terre. Et leur idée, c'est assez marrant d'ailleurs, c'est assez vicieux comme système de pensée, c'est que, au fond, étant donné que le bon Dieu est bon, c'est pas la peine d'essayer de se mettre bien avec lui, puisque d'office, il vous fera pas de mal. En revanche, Satan, lui, il est méchant. Donc il faut mieux s'arranger avec Satan pour essayer de le dissuader de nous emmerder.
C'est ça. Donc ils font des offrandes
à Satan. Donc ils font des offrandes à Satan pour qu'il leur foute la paix. Mais ça a provoqué toute une chaîne de réactions, et notamment, à l'heure actuelle, la plupart des églises sataniques dans le monde, que ce soit l'église de Lavey ou les autres, se rattachent au culte azéri. Et je Yazidi. Et je crois que ça explique, je le dis exactement comme je le pense et comme je vais le dire dans le prochain numéro du Libre Journal, ça explique les relations tout à fait particulières que Madame Mitterrand entretient avec ces gens-là. Ouais, je le dis carrément parce que c'est la vérité.
Bon, enfin, tout ce que je sais, c'est que, enfin, moi, je veux pas parler de Madame Danielle Mitterrand, mais ce qui est vrai, c'est que, on était à Bagdad, ça doit être à peu près à 400 kilomètres. Pratiquement aucun Bagdadine s'était jamais rendu dans cette région. Ils en ont peur. Et ils n'ont qu'un souhait, qu'ils s'en aillent.
Ouais.
Il les persécute pas du tout.
Alors il y a une autre
chose. Mais il souhaite vraiment qu'il s'en aille. Et ce qui explique que c'est, on voit bien que c'est une opération montée par le gouvernement turc, pour la bonne et simple raison que on a dit ils s'en vont. Et on en a déjà arrêté qu'ils sont en Allemagne. Et c'est pas parce que ils veulent aller en Allemagne, c'est parce que leur communauté est principalement installée en Allemagne.
Mais
d'autre
part,
pour aller se retrouver du tout avec des Kurdes.
D'autre part, si on regarde une carte de géographie, on se demande comment ces gens ont pu partir en bateau. Sans se faire remarquer ni par la police turque, ni par la police irakienne, ni par personne. C'est donc impossible. Ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, c'est que il existe.
Mais
ça,
surtout en ce moment.
Quand on pense qu'ils ont
avec justement les manœuvres à la frontière irako-syrienne, ça devait être extrêmement surveillé par les satellites d'observation américains.
Mais bien sûr. Et je rappelle aussi qu'ils ont accosté en France à 100 km de Toulon, qui est quand même le port de guerre français par excellence.
Et en passant,
qui est surveillé.
Oui, non mais c'est invraisemblable, enfin, qu'on nous dise froidement que le centre de détection de Saint-Jean-Cap-Ferrat est fermé du vendredi au lundi, du lever du soleil au coucher du soleil.
Mais vous savez qu'il y a un roman.
Les 35 heures, l'application des 35 heures par la marine.
Il y a un roman célèbre qui raconte comment. Le 15 août tombant, je crois, un mardi, donc samedi, dimanche, le pont du lundi, le mardi, les militaires rentrent le mercredi matin dans leur caserne pour découvrir que la France est occupée. Oui. Parce que les soviétiques qui fêtent pas le 15 août, voilà. Ils étaient arrivés tout simplement le samedi matin. Mais personne s'en était vraiment aperçu. Donc on est dans cette épure-là. Il y a une chose aussi qui est très intéressante à propos des Yazidis, c'est que il existe, j'ai vu le document, un accord entre le gouvernement turc et les responsables de la communauté yazidi, par lequel, vous avez vu ça aussi Emmanuel, par lequel les responsables de la communauté s'engagent à infiltrer les organisations comme le PKK en Europe, qui est le parti communiste kurde en Europe, et informer le gouvernement turc, les services spéciaux turcs, des comportements des mouvements marxistes, léninistes, kurdes en Europe. Donc ils sont, pas tous les Yazidis, mais certains sont des agents infiltrés du gouvernement turc dans les milieux kurdes en France, et en Allemagne, et en Angleterre, principalement en France et en Allemagne. Et donc si on veut infiltrer des agents, là ils ont trouvé un moyen qui est formidable.
Mais alors, c'est une histoire. Daniel Mitterrand,
avec la complicité
Daniel Mitterrand, dont vous parlez tout à l'heure, jusqu'ici, il me semble que ses relations étaient surtout avec le Parti communiste.
Non, c'est alors, surtout avec les Kurdes.
C'était pour l'infiltrer
Le PKK.
Avec le Parti communiste. Mais peut-être était-ce pour infiltrer alors le.
Ah, ça, je n'étant pas dans sa tête, et d'ailleurs je m'en réjouis, je suis pas vraiment au courant. Mais ce qui est certain, c'est que les relations qu'elle entretient avec cette communauté extrêmement bizarroïde, peuvent éclairer d'une façon très intéressante à la fois son personnage à elle, sa position à l'heure actuelle dans cette affaire,
l'influence démoniaque qu'elle a eue sur un président que nous avons eu pendant 14 années à la tête de l'État républicain.
Mmh. Voilà. Mais je crois ça tout à fait. Moi, je crois que c'est une dimension qui explique beaucoup l'actualité, la dimension occulte et satanique. D'ailleurs, pour ça, j'ai fait une rubrique dans le Libre
Journal. Les efforts de Mitterrand pour y échapper avec un second ménage.
Ouais, il me semble que il y avait un côté déjà sui generis démoniaque chez Mitterrand qui ne...
Alors,
pouvait se suffire à soi-même.
Enfin voilà. Donc, autre sujet.
Vous permettez, Michel, parce que j'ai des similitudes extraordinaires avec une autre affaire pour laquelle je voulais parler à ce micro en particulier. C'est en Bulgarie, je parle beaucoup de la Bulgarie. Il se passe quelque chose de particulier, c'est la compagnie d'aviation qui était la seconde des pays de l'Est. Enfin la deuxième après Aeroflot qui avait quelques milliers d'avions quand même, Aeroflot. La deuxième c'était Balkan. Et Balkan avait
Balkan.
Elle avait une quarantaine d'appareils il n'y a pas longtemps encore.
Elle passait,
justement, elle n'existe plus.
L'année dernière,
oui, mais elle passait juste avant la compagnie polonaise. Et elle a été rachetée par un milliardaire israélien qui s'appelle Gad Zeevi. Et Zeevi, c'est assez curieux dans l'histoire juive. Zeevi, c'est quelqu'un qui prêche aussi. C'est pour ça qu'il y a une similitude étonnante. Le fait qu'on peut pratiquer le bien ou le mal, et plutôt d'ailleurs le mal que le bien, parce que ça s'équilibre et ça permet de faire avancer l'avènement de la Nouvelle Jérusalem. Et ce Zeevi, qui est particulier, donc qui a acheté pour 150 000 dollars l'ensemble de la flotte, 150 000 dollars c'est à peine le prix d'un moteur, hein, l'ensemble de la flotte aérienne bulgare, il y a maintenant un peu plus de 2 ans, Balkanair est fermé depuis 8 jours. Les avions ont été vendus, écoulés. Il n'y a pas un article dans les journaux. Et très étrangement, il y a quand même quelques sites sur Internet qui sont au courant de ça. C'est par exemple, il y a un site qui en parle de Balkanair, c'est celui de l'International Socialiste. Donc, les gens qui doivent savoir savent. C'est une escroquerie assez importante. C'est assez nouveau. Je trouve qu'on n'a jamais vu, que je sache, une flottille capturée comme ça par un pays, pas par un pays, par un milliardaire situé dans un pays étranger.
C'est la technique tapis, quoi. Il achète.
C'est une OPA, c'est une sorte d'OPA, en effet, avec un accord particulier mené avec le gouvernement bulgare. Il y a les avions, mais il n'y a pas que les avions. Il y a les aéroports.
Il doit y avoir les créneaux.
Les créneaux, donc c'est-à-dire les droits d'atterrissage qui se négocient pour des fortunes. Les routes de vol, tout ça, c'est des fortunes. C'est des millions de dollars. Ça se négocie sur des années. C'est-à-dire que c'est comme les licences de taxi, par exemple. Il y en a un nombre limité. Et au moment de l'OMC, la désorganisation mondiale par le commerce, ça vaut une fortune. Et alors ça a été acheté 150 000 dollars, certainement avec des complicités à l'intérieur du gouvernement bulgare. On parle beaucoup de Wilhelm Krauss, qui a été ministre des Transports de l'époque. On parle aussi d'Alexandre Boshkov, qui était le patron de l'agence de privatisation. Bon, tout ça, j'ai déjà un peu raconté dans le Libre Journal, mais la nouveauté... Le Libre Journal écrit. Hein. La nouveauté, c'est que maintenant, pour la première fois, une compagnie est retirée. Et alors, ce qui est amusant, c'est que le patron est retiré des registres internationaux. Et ce qui est amusant, c'est que le patron Gad Zeevi, donc avec cette origine bizarre du mot Zeevi, Gad en bulgare, ça veut dire abject.
Ah oui.
Abject.
En serbe, c'est triste.
La signification est à peu près la même en serbe, ouais, aussi. Abject, sale.
Et... Oui, mais c'est la même chose en France, avec triste, qui peut être un triste cire. Hein. Mm-hmm.
Et donc les Bulgares n'ont plus que l'humour pour se défendre, politesse du désespoir. Ils disent on aurait pu trouver une autre crapule, un autre abject pour nous représenter, mais ils se sont fait voler. Le dernier instrument de leur indépendance, c'est très intéressant. Pourquoi ? À cause de la position géographique qu'occupe la Bulgarie. C'est intéressant parce que c'est un hold-up et que c'est à peu près aussi gros, toute proportion gardée, que le Crédit Lyonnais chez nous. l'affaire du Crédit Lyonnais. Imaginez qu'Air France, chez nous, ait été volée par un milliardaire étranger.
C'est tout à fait étonnant.
C'est intéressant aussi quand on connaît les relations entre Israël et la Turquie et quand on sait quand même que dans le Kantras, il y a toujours, il reste quand même des Turcs et qu'il y a du côté d'Edirne et enfin.
Toute la sous-traitance, comme ça, des problèmes.
Autour de Sandanski, etc. Il y a une communauté turque encore assez importante.
De plus en plus importante.
Vous évoquez les relations très, très amicales que la Turquie entretient avec Israël. Ça explique pourquoi les Kurdes ne sont pas allés se réfugier en Israël, probablement. Parce que c'est quand même plus près que les côtes de France, les côtes d'Israël, quand on part de la Turquie, géographiquement. Alors, je ne sais pas si la presse française aurait réagi de la même manière.
Il y a peut-être certaines défenses immunitaires en Israël qui n'ont pas été animées.
Oui, mais même dans d'autres pays, parce qu'on a l'impression qu'ils prennent des bateaux à voile. Et les voiles poussent toujours vers le nord parce qu'ils vont jamais vers les pays du Maghreb ou du Mashrek.
Oui, c'est vrai qu'ils auraient pu aller dans le Mashrek.
Ils vont toujours vers le nord.
C'est bizarre, je sais pas pourquoi.
Voilà, et Paul.
Écoutez, je voudrais peut-être citer ce que Raspail me déclarait en 1973. J'avais fait publier une longue interview après l'apparition du camp des Saints. Et Poulet avait dit qu'il y aura une guerre des races à la fin du XXe siècle. Et j'interrogeais Raspail à ce sujet qui me disait il n'y aura même pas de guerre des races parce qu'on aura perdu le sens des valeurs traditionnelles, des traditions séculaires et que la bête, je n'ai pas trouvé d'autres mots pour désigner les multiples forces politiques, journalistiques, religieuses qui nous manipulent, nous aura minés de l'intérieur et la conquête se fera sans violence parce que, avec notre complaisance, la meilleure arme des envahisseurs sera leur nombre innombrable.
Il y a 30 ans, c'est quand même vraiment. J'espère qu'il sera prophète avec ses autres livres aussi.
Mais enfin, on se retrouve un peu dans la configuration aussi en 80, quand Castro s'était débarrassé de tous ces Cubains qui ne lui plaisaient pas, qu'il considérait comme asociaux. Et les premiers bateaux, les Américains ont parlé de bateaux de la liberté, etc. Quand ils en ont eu 180 000 et qui étaient de la racaille, ils ont changé d'avis. Ouais.
Mais là, les organisateurs éventuellement turcs avaient lu Raspail. Puisque les Kurdes sont arrivés à l'endroit où Raspail, à l'endroit exact où Raspail faisait débarquer ses envahisseurs.
Alors moi j'ai entrepris de demander, je voudrais avoir des contacts avec le gouvernement turc ou avec des représentants du gouvernement turc, je le signale à nos auditeurs qui connaissent sans doute ça, parce que je voudrais faire du lobbying auprès du Parlement d'Ankara pour qu'il condamne le génocide vendéen. Qui reconnaissent et qui le condamnent.
Enfin,
alors, oui, Emmanuel,
Non, c'était juste à propos du camp des Saints dont Jean Madiran a parlé à plusieurs reprises cette semaine. Cet ouvrage qui a été réédité à plusieurs reprises, j'ai vérifié, qui a été encore réédité en décembre 2000.
Bien introuvable.
Ne figure pas sur Elec, le militaire des libraires. C'est quand même sidérant.
Alors, il faut savoir pourquoi il n'y figure pas. Il n'y figure pas parce que sur Elec, ça s'appelle, ne figurent les éditions qui sont mentionnés par l'éditeur. Or, en fait, on n'a pas encore signalé, parce que beaucoup de lecteurs ont répondu, effectivement, il y a un grand nombre de libraires qui ne trouvent pas cette édition qui existe actuellement chez Lafont. C'est un nouveau tirage de l'édition, de la troisième édition de 85, inchangée, dont on ne savait pas qu'elle existait, et que Lafont, la maison livre au compte-gouttes quand on le lui demande, mais laisse les lecteurs dans l'ignorance et laisse tellement bien qu'ils n'ont pas signalé. C'est la seule raison pour laquelle Electra. C'est
pas Electra qui l'a supprimé. Electra n'a que les livres qu'on leur envoie en dépôt légal.
Voilà, qu'on leur signale.
Enfin, ils en ont 735 000 quand même.
Mais si on leur, pour nous l'avons.
Alors, ils ont sur Electra, vous trouvez tous les livres de Raspail, mais épuisés. Et alors qu'il ne l'a jamais laissé épuiser, mais qu'il ne pousse pas la réédition. Alors, si vraiment vous tenez à l'avoir, et vous pouvez expliquer à un libraire, le libraire il le commandera, il finira par l'obtenir.
Alors, ce qui est très peu connu, c'est que Jean Raspail avait envoyé le camp des Saints, la réédition, l'a envoyé à Lionel Jospin. Et Lionel Jospin lui a répondu.
un petit mot,
ouais,
tapé, et un petit mot de sa main en dessous. Merci pour ce livre. Je vous la cite de tête, qui prétend être une anticipation, mais qui ne l'est pas.
C'est extraordinaire. Eh bien, alors, je crois que c'est le mot de la fin. Merci, Emmanuel. Alors, selon la tradition,
ah, oui,
on va présenter les titres qui étaient représentés ce soir. Donc, je vais commencer par Adeline, parce que l'auditeur dit... demande l'adresse de Philippe Tesson, parce que Philippe Tesson, dit-il, a écrit vivement une journée sans Voynet, et il voudrait lui écrire pour lui demander d'écrire à son tour un livre intitulé vivement une soirée sans Adeline.
Voilà. Je suis vraiment navré pour cet auditeur.
Pas tant que lui.
C'est pas une auditrice, alors, donc bah ça me fait moins de peine.
Alors, donc, Fidélis.
Fidélis,
adresse et mode d'abonnement et toutes ces sortes de choses.
22 rue Didot dans le 14e. Et puis, un abonnement d'essai, 3 numéros à 95 francs, si pas cher.
Sinon, revue légitimiste. Hein.
Revue royaliste, d'actualité et de doctrine.
Ça, c'est déjà plus légitimiste.
Non, c'est l'intitulé. Ah. Si, c'est tout à fait dans la mouvance légitimiste. Ah. Enfin, c'est l'intitulé, c'est revue royaliste d'actualité et de doctrine. Mais le fait est que c'est pas une revue qui se préoccupe des affaires Bourbon ou Orléans. Donc, c'est. Enfin, c'est effectivement une revue royaliste d'actualité et de doctrine, 22 rue Didot, dans le 14e. Et vous pouvez prendre un abonnement d'essai, je dis trois numéros, qui coûtent pourtant 55 francs chacun. Eh bien, trois numéros à 95 francs, qui dit mieux ?
L'abonnement d'essai ne devant pas être confondu avec l'assurance du même nom. L'assurance d'essai. Oh, Marie-Camille, elle écrit Rivarol.
Oui, Rivarol est en vente chaque vendredi dans les kiosques. Et on peut nous demander un spécimen gratuit ainsi qu'un spécimen de notre revue écrite Paris au 01 53 34 97 97, fax 01 53 34 97 98, ou aller sur internet rivarol.com.
J'ai peut-être oublié de dire que le numéro de février de Fidélis, pardonnez-moi Camille, est en retard à cause d'une grève des postes. Donc on est le 28 février, le numéro va sortir, mais on a eu une grève de 10 jours.
Voilà. Peut-être dans le 10e aussi.
Je sais pas, parce que là c'est pas moi qui m'occupe de ça.
Je voudrais ajouter que si des gens veulent s'abonner à la suite de cette émission et seulement la suite de cette émission, on leur fera un abonnement d'un an à 500 francs.
Waouh. Bon, alors donc vous
c'est au 1 rue d'Hauteville, Rivarol, 1 rue d'Hauteville, 7510 Paris. C'est fastoche, hein.
Alors, le livre Le Camp des Saints est actuellement en vente chez Duquesne Diffusion, 27 avenue Duquesne, me fait savoir sans doute Augie, enfin ou quelqu'un de chez lui, un auditeur, voilà. Donc, présent.
Eh bien, présent, si vous voulez, si vous ne connaissez pas le quotidien présent, hein, si vous voulez faire connaissance, vous écrivez à présent 5 rue d'Amboise, d'apostrophe, Paris 2e, pour un abonnement de 4 semaines, dont le prix facultatif est de 100 francs. C'est-à-dire que vous pouvez demander 4 semaines gratuites si vous voulez. Si vous avez 100 francs, vous pouvez les ajouter.
Et si j'avais 100 francs, je ne serais pas ici. 5 rue d'Amboise.
Qui dit mieux ? 5 rue d'Amboise, oui.
Vous dites mieux ?
Non. Fait et document, BP 254, 75 424, Paris CEDEC 09. Je répète. Fait document BP 254 75 424 Paris CEDEC 09. Et les gens qui m'écriront, je leur enverrai un numéro gratuitement.
Oh, vous êtes riche. Le livre non, journal.
Oui.
Vous le faites ou je le fais?
Vous pouvez, mais je vais aussi en glisser un autre. Je vais en profiter. Je vais trahir. Vous savez.
Belcoin Info. Travaille pour l'ennemi.
Je travaille pour l'ennemi, oui. Parce que Belcoin Info, il va y avoir une réunion demain à la mairie du 9e qui est sur les films tournés au Kosovo. C'est de 19h30 à 22h. Ça reste toujours une chose à comprendre, c'est en développement permanent, l'histoire du Kosovo, c'est pas du tout fini. Ouais. D'ailleurs, on va encore en dire des choses dans le libre journal écrit. Et alors, éventuellement, vous pouvez aussi vous abonner à boîte postale 391 75 869 Paris CEDEX 18.
si vous intéressez à l'information sur les Balkans.
Sur les Balkans, mais qui est essentiel. Hein,
comme son nom l'indique, c'est assez spécialisé.
Mais alors, le Libre Journal...
Il ne participe pas au Clan de la Presse parce que c'est pas un journal de la famille nationaliste.
Non, pas du tout. Hein, pas du tout, c'est un journal géographiquement centré.
Moi non plus.
Hein?
Moi non plus.
Bah vous viendrez plus, alors enfin une bonne raison.
Pensez au Libre Journal, c'est vrai. N'oubliez pas.
Et puis, alors, France pour toi. Le Libre Journal, si vous voulez en savoir plus,
excellent journal.
Dans le prochain numéro sur les Yazeri et puis aussi sur Monsieur Cohn-Bendit, ben vous pouvez vous abonner au Libre Journal. Alors c'est 4 places françaises, 75-010 Paris. L'abonnement est de 700 francs. Nous ne faisons aucune réduction, même si vous recommandez de cette émission.
Et nous, c'est grâce aux amis de Rivarol.
Ah ben voilà, mais moi je suis pas les amis du Libre Journal. Alors on peut... Et puis si vous voulez un numéro au spécimen, vous le demandez. Et si vous avez les moyens de nous envoyer 30 francs en timbre, on sera bien contents. Et on est pauvres, nous.
Et oui.
Contrairement à Adeline, vous verriez s'il est élégant. Hein. Enfin bon, ce soir, j'arrête le bouc émissaire. Merci de vous être donné la peine de venir avec nous ce soir pour le Clan de la Presse. Le prochain dans un mois à peu près. Et on fixera la date de conserve demain, voilà. Merci à tous.
Bonsoir.
Alors, nous reprenons la parole avec Anne-Laure Blanc. Anne-Laure Blanc, je ne veux pas la manquer, celle-là, parce qu'après tout, il n'y a pas de raison de s'en priver. Comme votre nom ne l'indique pas, vous êtes nègre.
Oui, mais il y a bien des négresses vertes.
Oui.
Pourquoi pas une négresse blanche, après tout.
Alors, vous avez eu une idée que j'ai trouvée extrêmement intéressante, sympathique, et je vais vous demander de l'exposer.
Alors l'idée ne vient pas tout à fait de moi, elle était déjà un peu dans l'air du temps, notamment en Bretagne, et c'est l'idée de proposer ces services d'écriture, non pas dans les mairies pour remplir des papiers administratifs, mais pour aller à la rencontre des particuliers, de vous, de tous ceux qui veulent laisser une trace écrite, soit de leur souvenir, de leur mémoire, d'un récit de voyage, enfin de quelque activité que ce soit, et qui veulent en laisser un souvenir pour leur famille. Donc ce n'est pas a priori un travail qu'on va présenter immédiatement à un éditeur, c'est un travail qu'on va faire pour se faire plaisir en famille, pour écrire les souvenirs de sa vie.
C'est-à-dire que n'importe qui a envie de raconter soit l'histoire de sa famille, soit sa propre histoire, soit une aventure qui lui est arrivée, soit une aventure qu'il a rêvée.
Tout à fait, on peut aussi rêver.
Une histoire d'amour ou n'importe quoi, entre en contact avec vous.
Oui.
Et vous dit, voilà, moi j'ai envie de m'exprimer, mais je ne suis pas certain d'avoir la technique nécessaire à l'écriture d'un livre complet. Et donc, il vous demande d'assurer la partie technique.
Voilà,
c'est ça. La partie technique, y compris l'écriture.
Tout à fait, surtout l'écriture.
Surtout l'écriture.
Parce qu'en fait, très souvent, j'ai rencontré des personnes qui n'osaient pas écrire, qui avaient écrit il y a très longtemps, des rédactions à l'école, des dissertations au lycée, et qui n'osaient pas reprendre le stylo tout seul. La plume tout seul, donc ils me rencontrent et je leur propose soit par des entretiens successifs, soit par des échanges de courriers, de mettre au point un texte plus littéraire, mieux ficelé.
Comment ça se passe pratiquement?
Pratiquement, ça se passe exactement comme le veut la personne qui fait appel à mes services, en fait. La meilleure manière est de se rencontrer, évidemment, régulièrement, physiquement, de se retrouver autour d'une table. La personne me raconte son histoire pendant environ 3/4 d'heure. Plus de 3/4 d'heure, on finit par se fatiguer. Rentrer chez moi, je
prends des
notes. Je pose des questions, mais très souvent, finalement, une fois qu'on a lancé la machine des souvenirs, une fois que le fil se déroule, on n'a plus qu'à rembobiner la plotte de l'autre côté. Je prends des notes. J'aime pas beaucoup me servir d'un magnétophone. Je le fais de temps en temps, mais pas trop souvent. Donc, je prends des notes très rapides. Et chez moi, ensuite, dans le calme du bureau, je réécris tout ce que la personne m'a raconté.
Mais quand même, ça paraît tout à fait incroyable, parce que un souvenir, bon, la personne qui vous raconte le souvenir. Elle, elle a ce souvenir, donc elle, il est très complet. Mais ce qu'elle vous en raconte, ça ressemble à peu près autant à son souvenir qu'une hâte de poisson ressemble au poisson qui nage dans la rivière. C'est-à-dire qu'un souvenir, c'est un mélange de sons, d'éclairage, de couleurs, de parfums, de musique, de sentiments. Alors, comment on arrive à récupérer tout ça pour restituer le souvenir dans sa viande, si j'ose dire.
En fait, il y a aussi une qualité d'écoute. Enfin, je pense que, bon, maintenant, j'ai 45 ans, donc un peu d'expérience de la vie. Et la qualité d'écoute est importante. On n'est pas seulement une plume, on est aussi une oreille. Et quand on a un bon contact, les gens racontent beaucoup, me montrent des photos aussi. J'aime bien voir des photos. Et puis après, c'est la magie du mot qui tourne. De toute façon, bon, on va élaborer ce texte en plusieurs fois. Le texte écrit par petits chapitres, hein, par 5-6 pages, va être réécrit, pris en main par la personne pour qui je travaille. Donc on a un échange.
Pendant trois quarts d'heure, vous écoutez la personne. Voilà. Ensuite, vous mettez ça par écrit.
Je mets par écrit, je lui repropose, je lui rapporte le travail ou je lui envoie. Et elle, souvent, rebondit sur cette première idée pour dire, ah ben non, ça se passait pas tout à fait comme ça. Finalement, j'ai oublié de vous dire que ce jour-là, l'oncle Marcel était avec nous. J'ai oublié de vous dire que quand on a... pris ma maison, enfin j'ai une dame vietnamienne qui avait vécu au Vietnam. Bon, on a raconté la chute de Saigon, c'était très intéressant. Ah, oui. Bon, elle a ressorti des souvenirs au fur et à mesure, et on a remis un petit peu en forme. Donc,
est-ce qu'il n'y a pas la tentation pour vous, à certains moments, de solliciter l'événement et de dire à votre interlocuteur, écoutez, bon, ce que vous racontez, c'est très intéressant, mais si ça s'était plutôt passé comme ça, ça serait mieux pour le livre.
Ah non, pas du tout. Non, je mets pas du tout le roman en... Comment dire, ce n'est pas une priorité. Je pense que c'est plutôt vraiment un travail de mémoire qui, encore une fois, va s'adresser à la famille. Donc, très souvent, la famille a déjà les clés. Mmh. Ce qu'elle veut, c'est un objet, un joli livre qui va rester, qu'on va pouvoir offrir aux petits-enfants à Noël ou qu'on va pouvoir se partager lors d'une fête de famille. Et souvent, ce qui manque, ce sont les clés, justement. Mmh. Bon, je pense pas qu'il y ait beaucoup de règlements de compte, quand même. Souvent, les personnes remettent à plat des choses qu'elles ont eu du mal à dire à des enfants trop jeunes, qu'elles veulent expliquer à des jeunes adultes ou à des personnes plus âgées. Et en fait, très souvent, l'objet va être une transition entre ce qu'elles veulent raconter, ce qu'elles n'ont pas osé raconter. Enfin bon, il y a tout un côté affectif qui est très sympathique.
Anne-Laure Blanc, on va faire la coupure technique et puis je vous redonne la parole.
Bien sûr.
Juste après. Alors, on va reprendre cet entretien avec Anne-Laure Blanc, mais avant, je viens de recevoir un message d'un auditeur. Je voudrais une fois de plus souligner combien c'est difficile de... Je sais pas si je parle mal, je parle pas français, je sais pas. Je me rends pas compte parce que j'ai horreur de me réécouter. Vraiment, je me pose des questions.
Vous, généralement, vous vous exprimez assez clairement.
Alors voilà, un auditeur dit, avant de partir au soigner, vous avez affirmé que M. Sirven disait par le fond. Aujourd'hui, qu'est-ce qui vous permet de dire que Trenet s'appelait Netter, puisqu'il ne figure dans aucun dictionnaire des psaumes?
Alors, oh là là.
Je n'ai jamais affirmé que Sirven gisait par le fond. J'ai dit à l'époque, il y a quelques semaines, quelques mois, ça m'étonnerait qu'on revoie Sirven parce que dans les milieux policiers, on dit qu'il est probablement au fond avec une gueuse de béton attachée au pied. Je me contentais de rapporter ce que disaient certains policiers.
Moi, d'ailleurs, Sirven n'est pas revenu, c'est Monsieur Sirven.
C'est Monsieur Sirven qui est revenu. Donc j'ai absolument aucun moyen de savoir. Je disais, voilà ce qui se dit dans les milieux policiers. Les milieux policiers disent pas toujours la vérité ou ils croient la savoir, ils la savent pas toujours. Et quant à Trenet, je n'ai jamais dit que Trenet s'appelait Netter. Oui. J'ai dit, pendant l'occupation, M. Trenet avait envoyé une lettre à la presse pour répondre à un journal qui disait « Le juif Trenet s'appelle en réalité Netter », que ça n'était pas vrai et qu'il ne s'était jamais appelé Netter et qu'il s'appelait tout simplement Trenet. C'est clair, là?
Ah,
tout le monde a compris.
C'était très clair tout à l'heure.
C'est pas à peine que je répète une quatrième, une cinquième. Bon. Donc voilà. Alors monsieur, vous nous dites des preuves, on ne pourra plus vous croire. Je comprends bien que ça, il y a un problème là qui est pas un problème de crédit, c'est un problème d'acoustique. Voilà. Merci. Alors, je reprends avec Anne-Laure Blanc, qui est nègre. J'aime bien ça, ça me fait rire, moi.
Oui, on voit ça, hein, toujours. Ça c'est une très bonne manière de décontracter mes auditeurs.
Alors, je ne sais pas si Monique Belzonski et Gérard Wedlich, qui viennent de faire leur entrée dans le studio, ont pu entendre ce que nous expliquait Anne-Laure Blanc. Non, parce qu'on entend très mal quand on n'est pas dans le studio. En fait, son métier, c'est de recueillir les souvenirs, les confidences, les fantasmes, les fantaisies, les imaginations de quelqu'un qui ne se sent pas capable de l'écrire, de les écrire, et de les mettre sur le papier et d'en faire des livres. Et j'ai trouvé cette idée très, très intéressante. Et j'ai donc demandé à Laure Blanc de venir nous l'exposer. Alors, vous nous avez expliqué comment vous travaillez.
Oui.
Vous recevez, vous allez chez votre interlocuteur pendant...
Oui, oui, je l'écoute pendant...
Trois quarts d'heure.
Minutes à peu près.
Ensuite, vous lui envoyez... le résultat de votre travail, vous écrivez à partir de ses souvenirs, vous corrigez ensemble,
oui,
et puis
corrige
vous faites
ensemble.
un deuxième entretien.
Voilà, et le livre se construit au fur et à mesure des entretiens.
Voilà. Alors, en gros, combien de temps, est-ce qu'il y a une moyenne de temps?
Non, pas vraiment. En fait, on peut se voir une petite dizaine de fois. On peut se rencontrer pendant 2 ans d'affilée. Ça dépend vraiment des personnes. Bon, j'ai réussi à réécrire un roman rose en 2 mois. En à peine 2 mois, j'ai réécrit un roman rose très, très drôle pour une dame de l'océan Pacifique. Donc, j'étais sur les plages de sable fin. C'était très amusant.
Ah, c'est bien, oui. C'est sympa,
oui,
comme
on
métier.
On voyage beaucoup. Et puis, d'autres personnes préfèrent me rencontrer plus régulièrement pour aller plus au fond des choses, leur expérience professionnelle, leurs souvenirs d'enfance, leurs souvenirs de guerre, etc.
Mais quand, par exemple, il est question de... Un auditeur demande, bien entendu, si vous travaillez au noir.
Ah non, tout en transparence. Tout en transparence, j'y reviendrai.
Quand il s'agit de souvenirs professionnels, par exemple, vous n'avez pas la maîtrise du langage.
Non, mais généralement, c'est tout de même pour un public un public ouvert. Donc, en fait, je pars du principe qu'en tant que personne lambda, je dois comprendre ce que me dit mon interlocuteur et je dois pouvoir l'exprimer pour un lecteur qui n'est pas professionnel. Hein, ce sont des souvenirs, souvent chef d'entreprise, par exemple, qui va raconter sa progression professionnelle, bon, sans doute pour vendre ensuite son livre dans son association d'anciens élèves, par exemple. Mmh. Bon, ça ne sera pas des choses très compliquées, mais puis me met au courant. Ça, j'apprends beaucoup de choses aussi, par cette double relation.
Est-ce qu'il y a des... J'imagine qu'il y a des sujets qui vous intéressent plus que d'autres.
Oui, mais en fait, ce qui est intéressant, c'est justement de rencontrer des gens très, très différents, de faire connaissance. Bon, le problème, c'est que je dois rester dans la confidentialité la plus extrême vis-à-vis des gens pour qui je travaille. Mmh. Donc, je pourrais pas vous donner beaucoup d'exemples, puisque je ne juge pas, je censure pas. Et en même temps, en fait, au bout de quelques temps, les gens sont persuadés d'avoir écrit le livre tout seul.
Oui, j'allais vous poser la question. Ils vous disent pas, on va indiquer livre mis en forme.
Pour l'instant, non. Pour l'instant, non. C'est tout juste si j'arrive à obtenir un exemplaire pour ma bibliothèque.
Ah oui.
Les gens sont très discrets, ça froisse un peu peut-être leur petit égo, mais en fait, bon, moi je m'efface devant les personnes pour qui je travaille, je vais pas m'imposer à eux, je fais seulement la relation entre ce qu'ils veulent dire et la façon dont on peut l'exprimer.
Est-ce qu'il vous est arrivé de rencontrer quelqu'un qui vous raconte sa vie et de vous dire ça aurait fait un formidable bouquin de vraie édition?
Oui, 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 une fois, mais bon, je ne désespère pas de reprendre ce livre avec cette dame, de l'étoffer, parce qu'elle a compris aussi que c'était un livre qui pouvait intéresser un éditeur.
Ah oui.
Mais jusqu'ici, nous travaillons en édition numérique, c'est-à-dire qu'on va préparer une petite maquette très simple et en faire imprimer le livre par une technique de laser, enfin de photocopie un peu plus luxueuse, et avec un dos collé, on arrive à avoir un très joli petit livre pour un prix modique.
Ouais.
Donc c'est un tirage à 50 exemplaires, 50 ou 100 exemplaires, pas plus.
Qu'est-ce qui prévaut dans les sujets qui vous sont proposés? C'est plutôt les mémoires, les récits familiaux, les expériences professionnelles?
Non, les mémoires. Les mémoires, en fait, depuis généralement l'enfance, c'est sur leur enfance que les personnes s'attardent le plus. C'est de leur enfance qu'ils gardent d'excellents souvenirs. Je les pousse aussi à raconter comment on pouvait être enfant dans les années 30, dans les années 50.
Et qu'est-ce qui motive quelqu'un à ce travail?
Laisser un souvenir à sa famille. Souvent, c'est à la demande des enfants ou des petits-enfants que la personne se met à écrire. Elle est souvent sollicitée par les plus jeunes qui trouvent mon adresse sur mon site internet, hein, pianotant sur leur ordinateur, et puis qui vont tanner grand-père ou grand-mère pour leur dire « Mais raconte-nous comment ça se passait quand on allait chercher l'eau au puits, raconte-nous comment ça se passait quand on n'avait pas un lave-vaisselle à la maison. » Donc, ce sont des choses quelquefois très banales,
Moyen-Âge,
très simples. Bon, et puis évidemment, de temps en temps, des personnes qui ont des expériences plus variées. Donc, comme la chute de Saïgon, bon, c'était un grand moment à revivre.
Vos clients, parce que c'est le mot.
Ce sont des clients, oui.
Des amis. En général, des gens d'un certain âge. Enfin, vous avez assez peu de jeunes gens, j'imagine.
Oui, qui ont quand même une expérience de la vie. J'ai été récemment contactée par un alpiniste qui n'a pas 40 ans, mais qui a vécu tellement d'aventures que je pense qu'on aura de quoi faire un très beau livre sur ce qu'il a vécu, parce qu'il avait besoin de faire le point sur sa vie, ce que lui avait apporté son expérience sportive.
Et comment réagit l'entourage? Vous rencontrez, par exemple, si c'est un monsieur qui vous appelle, vous rencontrez sa femme, vous...
Pas tout de suite, généralement. Je préfère avoir une relation individuelle, parce que les gens, quelquefois, sont un peu méfiants, vont se demander pourquoi je viens fouiller dans leurs souvenirs, qu'est-ce qu'on va bien pouvoir raconter d'eux. Mais bon, j'ai très vite leur confiance, on a très vite des relations sympathiques.
C'est amusant, c'est émouvant. Quel est le sentiment qui prévaut dans...
C'est émouvant, émouvant et enrichissant. Parce qu'on rencontre vraiment des personnes qui d'abord se mettent sur la table, hein, qui déballent leurs tripes. On n'a pas toujours les clés de leurs histoires, mais c'est toujours très émouvant. Et puis on peut de temps en temps leur poser une question ou deux. C'est l'émotion qui prédomine.
Il est arrivé que l'alchimie ne se fasse pas, c'est-à-dire que vous disiez au bout d'un moment, écoutez, non, ça va pas, j'ai pas envie d'écrire ça, ou que la personne vous dise, non, j'ai pas envie de vous raconter. Il faut arrêter.
Oui, je le sens très vite. En fait, généralement, j'offre notre premier rendez-vous est un cadeau. Pour faire le point, pour faire prendre contact, et j'ai refusé de jouer les psychanalystes au petit pied. Une ou deux fois, on m'a dit, j'ai une histoire atroce à vous raconter, on a accumulé les assassinats, les viols, les dépressions, etc. J'ai dit non, là, c'est pas pour moi. Bon, si vous voulez le raconter, racontez-le seul, ou allez vous faire soigner, mais je dépasse pas certaines limites quand même. Hein,
il y avait un film, il y a un livre d'ailleurs qui s'appelle La Lectrice.
Oui, que j'ai vu, j'avais beaucoup apprécié.
C'est un peu, vous êtes le pendant, si j'ose dire.
Pas tout à fait, parce que j'estime qu'on peut avoir une relation professionnelle et pas plus que professionnelle. Malgré tout, je ne serais pas striptease devant.
Mais au fond, il y a de ça quand même. Le fait d'avoir une jeune femme en face de soi à qui on va raconter ses secrets, ses secrets de famille, ses secrets intimes, même s'il n'y a pas d'intimité vraie. J'imagine que les gens vous font pas de confidences.
Non, les gens sont très pudiques. Très pudiques.
Mais
heureusement,
ça doit créer une espèce de relation tout à fait particulière. Et que je vous les revoyais après.
Pas toujours. Non. En fait, non. Une fois que le livre est fini, il leur appartient, le texte leur appartient, et je ne cherche pas à les revoir. Je leur envoie une carte de vœux publicitaire plutôt, de promotion. Mais c'est tout. Je pense que j'ai pas à intervenir dans leur vie au-delà du livre. Et dans la mesure où je rencontre plusieurs personnes simultanément, je vais pas non plus faire un mélange de toutes ces histoires. Donc chacun reste dans son tiroir, si je
suis. Et sur votre vie à vous, est-ce que ça joue? Est-ce que, au moment où vous travaillez sur un livre ou sur un autre, votre comportement ou votre façon d'appréhender la vie, votre point de vue change?
Oh, un petit peu, oui, puisqu'on peut comparer des expériences ou rencontrer des vies qu'on n'avait pas imaginées. Mais en fait, j'arrive à bien faire la limite entre la vie familiale et la vie professionnelle, heureusement.
C'est intéressant. Alors, vous avez déjà écrit plusieurs livres, un roman sentimental.
Oui, c'est ce roman d'amour dont je vous parlais, Sous les cocotiers.
Un Tour de France cycliste.
Ah oui, c'est un monsieur très courageux qui avait pris sa bicyclette le lendemain de sa retraite et qui a fait le Tour de France à bicyclette. Donc, c'était impressionnant, hein, le nombre de kilomètres sans EPO, au spaghetti uniquement, m'a-t-il précisé. Et c'est sa femme qui lui en a fait la surprise à partir des notes prises en voyage. Il était très ému.
Puis alors, il y a... un roman policier.
Oh, il était très drôle, ce roman policier, avec quelques lignes dignes d'Audiard que je n'ai pas eu besoin de retoucher. Le reste, bon, l'orthographe était tellement approximatif que je me suis bien amusé.
En infirmerie psychiatrique.
Oui, c'était plutôt un travail de réécriture, parce qu'en fait, je propose aussi aux personnes qui ont des textes déjà écrits, mais bon, pas tout à fait publiables, de leur retoucher. Donc ça, c'est plutôt de la retouche, de la réécriture.
Et puis alors je vois quelque chose qui me laisse pantois, c'est un texte de mythologie birmane. Vous êtes devenue une spécialiste de la mythologie
birmane.
Non,
non, pas du tout. Non, non, j'ai reçu par internet un texte à corriger, donc à relire et à corriger, parce que bon, la personne avait traduit ce texte, mais comme toujours, quand on est dans un texte, on ne voit plus les petites erreurs, les redites, les phrases mal construites. Et je me suis amusée énormément à retrouver dans la mythologie birmane, en fait, tous les thèmes des dessins animés contemporains, avec des armes secrètes, des tapis volants, des animaux maléfiques. Enfin, c'était très drôle.
Ah oui, c'est drôle.
Oui, oui. Voilà, donc, alors, c'est l'avantage des sites internet, c'est qu'on est contacté par le monde entier, par le Québec comme par la Thaïlande.
On ne va pas parler d'argent ce soir, parce que je crois que d'abord que ça doit être assez variable, ça dépend du temps, ça dépend des...
Oui,
des,
oui, c'est très variable, et les personnes... je travaille au fur et à mesure, donc c'est toujours très souple. Les personnes partent en vacances, tant pis pour moi, on va pas travailler, c'est moi qui pars en vacances, je leur explique gentiment, et en fait, ils me règlent les prestations au fur et à mesure.
Au fur et à mesure.
Donc, ça peut leur permettre d'étaler leurs dépenses, et puis d'arrêter, si un jour ou l'autre,
les circonstances. Alors, si on veut vous, pardon, vous contacter, où est-ce qu'on peut le faire?
Alors, on peut le faire par téléphone au 06 16 26 25 66 ou au 01 42 37 05 94. On peut le faire par courrier électronique alblanc@free.fr et on peut consulter mon site internet qui est www.multimania.com /mémoire, sans accent, parce que les accents ne passent pas bien sur internet, j'en suis la première, désolée. Voilà, et je vous donnerai tous les renseignements nécessaires. Vous pouvez aussi m'écrire, je peux vous donner mon adresse, 127 rue Pierre Vermeer, qui n'est pas le peintre, mais un illustre inconnu mort pour la France, Vermeer, 92 160 Antony. Vous savez tout.
Voilà, alors je vais rappeler, puisque nos auditeurs ont commencé à noter, je vais rappeler donc votre adresse, 127 rue
Pierre
Vermeer, Vermeer, 92 160 Antony, le téléphone fax 01 42 37 05 94, le téléphone portable 06 16 26 25 66 et les mails alblanc alblanc at ou arrobas, c'est le petit a entouré, freefr2e.fr.
Voilà. Et je vous donnerai tous les renseignements nécessaires si vous vous lancez dans cette merveilleuse aventure qui est d'écrire ses mémoires
en tout
et
cas,
de les laisser à ses petits-enfants.
C'est une idée assez amusante, je trouve. Et ça pourrait effectivement permettre à beaucoup de personnes qui ont eu des expériences, qui ont vécu et qui voudraient transmettre ça à leurs enfants, de le faire sans avoir le souci de l'écriture qui est
et la panne devant la page blanche qu'ont certains.
Merci
beaucoup.
Au revoir, à bientôt.
Ni a tua filha, ai meu bem, me ensinou o caminho. Baixo daquel pino, por aquel valado, ai meu bem, passava o caminho. Toma-te esta rosa, toma-te este anillo, toma-te esta rosa, ai meu bem, vente comigo. Adios, minha casa, meu espelho lindo.
C'est drôlement joli ça, ça s'appelle Sur le chemin de Compostelle à travers la Galice ancienne terre celte, et c'est un disque compact d'Elena Polonska, John McLean, Isabelle Kellier et Radmila, un disque Radio Notre-Dame, MU 750, c'est ça? Alors, je suis arrivé à dire le code complet. Je suis vraiment très fier de moi. Des annonces peut-être, oh, Victoria.
Oui.
Alors faites court parce que...
Je me dépêche. Samedi, Sabine Dumont de la Londe présente ses dernières aquarelles et huiles, animaux, fleurs, vues de Venise, à l'hôpital Gustave Roussy de Villejuif du 18 février au 18 mars. Le samedi 3 mars. De 11h à 12h30 et de 14h30 à 18h, séance de dédicace des livres de Henri de Lesquin. Librairie Âme et Racine, 11 place Saint-Louis, à Versailles. Pour les renseignements, téléphone 01 39 51 21 50.
Alors Lesquin, en plus, il est tête de liste, il présente une liste à Versailles, pour les municipales. Donc, si vous voulez le rencontrer,
avec lui, ce sera très bien. Samedi 3 mars, Pascal Gauchon dédicacera Mondialiste et Français toujours, point d'interrogation, à la librairie France Libre, 6 rue du Petit Pont, Paris 5e, de 15h à 19h. Conférence du Cercle Sol Invictus, le vendredi 9 mars à 20h, Comment peut-on être chrétien, par Alexis Arrête. Conférence animée par Arnaud Guyot-Janin, ça se passe à SEIN. Salle Lumière, 4 place Saint-Germain-des-Prés, Paris 6e, prix d'entrée 40 francs.
Et là, je vous recommande d'y aller parce que Arrête est quand même un personnage extraordinaire.
C'est un merveilleux orateur.
C'est un merveilleux orateur, c'est quelqu'un qui a vraiment des choses très profondes à dire. Et puisque Gustave Thibon nous a quittés, on peut considérer que d'une certaine manière, il est un des héritiers de Gustave Thibon.
Pour le 38e anniversaire de la mort du colonel Jean-Bastien Thiry, cérémonie du souvenir au cimetière de Bourg-la-Reine le dimanche 11 mars à 15h et messe célébrée en l'église Saint-Odile, 2 avenue Stéphane Mallarmé, Paris 17e, le lundi 12 mars à 19h. Samedi 24 mars, c'est l'association Pour l'Unité vous invite à sa 93e nuit de prière à partir de 21h en l'église Saint-Sulpice de Paris. 22h30, messe solennelle de Saint-Joseph présidée par Mgr André Faure, évêque de Perpignan. 5h, messe du 4e dimanche du carême. Garde d'enfants assurée toute la nuit, prévoir une collation pour la pause. Renseignements. Pour l'unité du monde par l'Église catholique, 01 43 54 98 18. Le pasteur Blanchard dédicacera son ouvrage Mythes et races le samedi 24 mars de 15h à 19h à la librairie Duquesne, 27 avenue Duquesne. Parution d'un numéro hors série du magazine Kraal Info.
Kraal.
Sur le thème « Les croisades, pourquoi nous ne ferons pas repentance ?» Pour recevoir ce numéro, écrire à Scout Godefroy de Bouillon, 3 rue Carpeau, dans le 18e, en joignant le règlement de 43 francs, frais de port inclus. Enfin, le jury international des lettres et des sciences paysannes a proclamé le lauréat de l'année du siècle en classe littéraire Arthur Comte pour son livre Les paysans de France de l'an 1000 à l'an 2000 et science, classe scientifique le professeur Jeanne Brugère-Picou de l'école vétérinaire de Maison Alfort pour l'ensemble de ses travaux.
Le bouquin d'Arthur Comte, il est formidable.
Hein. Les paysans,
Les paysans ouais. de France. C'est un très très bon livre, très beau livre. C'est tout ?
C'est tout.
Bien. Alors, je me tourne vers les invités de cette deuxième partie d'émission, qui sont Monique Beljanski. Bonsoir, madame.
Bonsoir.
Gérard Védlige. Bonsoir, Gérard.
Bonsoir, Charles.
Et Maître Dautrive, qui est l'avocat de l'association CIRIS, laquelle association représente et défend les intérêts des malades soignés par la méthode Beljanski. Je vous ai demandé de revenir ce soir parce que ça fait quand même un certain nombre d'années qu'on se connaît et qu'on tient au courant nos auditeurs de l'évolution de ce qu'il faut bien appeler l'affaire Beljanski. Et là, on arrive peut-être à une étape cruciale qui est l'étape du procès. On arrive à l'étape du procès qui est peut-être cruciale, c'est ça que je dis.
La semaine du 19 mars.
Donc c'est dans la semaine du 19 mars que vous allez, Madame Beljanski, comparaître.
Alors, je suis un horrible jojo.
Oui, vous êtes une reprise de justice. Et Védlige aussi qui
Oui, bien sûr.
À sa demande, parce que moi j'ai demandé.
Il a été inculpé à sa demande. Alors là, chacun prend son plaisir où il le trouve.
Non, mais c'est extrêmement...
Maître Dautrive, vous ne comparaîtrez pas, vous n'êtes pas inculpé.
Alors moi, je n'ai pas de particule, donc je m'appelle Maître Dautrive. Excusez-moi.
À chaque fois, je veux lui coller une particule.
Ouais. J'ai dû en avoir une, mais j'ai dû la perdre dans la révolution.
En cherchant bien, vous la retrouverez. Quand j'aurai le pouvoir, je vous la rendrai. Donc Maître Dautrive, vous n'êtes pas... vous n'êtes pas inculpé ?
Non.
Non, mais la question n'est pas idiote, parce que ça pourrait être délictueux de défendre des gens qui prétendent guérir, enfin soigner des malades sans l'accord de la pharmacie, de la mafia pharmaceutique.
Vous avez partiellement raison, parce que lorsqu'on défend l'ordre établi, c'est-à-dire ce qui est cautionné par le gouvernement, etc., on n'a évidemment aucun problème. Hein. Lorsqu'on s'expose à défendre d'autres thèses, c'est-à-dire une contradiction et la possibilité, par exemple, pour des malades d'utiliser des produits qui sont contestés, je dirais que l'avocat n'est pas forcément dans une situation confortable, d'un point de vue matériel. En revanche, moi, je suis d'un point de vue, je dirais, psychologique, en tous les cas, moral.
Mais vous allez devenir l'avocat de Beljanski, par exemple Maître Trémollet de Villers est maintenant à jamais, pour les siècles des siècles, l'avocat de Touvier, comme comment s'appelle-t-il, Vergès, est l'avocat de Barbie. C'est-à-dire que dans ce système, dans notre système de grande liberté et de justice paisible, où les droits de la défense sont imprescriptibles, bien entendu, eh bien, on traite l'avocat comme le complice de ses clients.
C'est aussi parce qu'on veut toujours mettre une étiquette sur...
Voilà. Et vous avez raison, et moi j'irais même plus loin. Je crois que, par exemple, dans le code de procédure pénale, les droits des malades, les droits des justiciables ne sont pas forcément respectés. Juste un détail, depuis le 9 octobre 1996, date de départ en ce qui concerne M. Weidlich et le CIRIS d'une mise en examen, ben, ils n'ont pratiquement jamais été entendus. C'est-à-dire que les malades n'ont jamais été entendus. C'est dire que le procès qui vient 4 années après va permettre effectivement de donner un certain nombre d'explications, ce qui n'avait pas été le cas.
Alors, je vais demander à Gérard
Weidlich... À propos de Maître Dautrive... Bon, je l'ai découvert par mon ami Marc Crouzier, qui est décédé, qui fait partie des martyrs, et qui avait dit quelque chose de très fort, que la première des ordonnances devait être une ordonnance d'information. Et quand il m'avait dit, voilà, j'ai rencontré un avocat qui va me défendre, qui est courageux, et qui est surtout incorruptible. C'est-à-dire, c'est dans cette profession, je me suis rendu compte qu'il y avait des problèmes également, et donc rencontrer quelqu'un qui défend les intérêts des malades avec autant de courage, qui défend les droits de l'homme, qui c'est l'avocat aussi des malentendants, vous voyez. Donc il est devenu un spécialiste dans le domaine de la santé publique, et avec vraiment beaucoup de courage, il argumente toujours d'une manière très pertinente. Alors c'est l'avocat du CIRIS pour toutes nos procédures, puisque ainsi que je l'ai expliqué dans d'autres émissions, vous savez, on a la répression, le harcèlement fiscal, qui est terrible. Alors je ne sais même plus combien de procédures on a, ça doit friser une quinzaine entre devant le tribunal administratif, fiscal, on en a des qui sont pendantes devant la cour administrative d'appel de Lyon, etc., etc. Alors on a des... Maître Audry s'occupe, gère un petit peu de toutes ces procédures.
Alors, Gérard, ce que je voudrais avant, c'est que, avant de rentrer dans... On ne va pas rentrer dans le détail de toutes les procédures. Là, on va rester, je crois, sur l'affaire qui va être jugée à partir du 19 mars. Mais ce que je voudrais, c'est que, pour les auditeurs nouveaux qui ne connaîtraient pas l'affaire Beljanski, que vous donniez un résumé de cette affaire. Alors, d'abord, je vais demander à Monique Beljanski de nous... résumer, encore une fois, ce qu'est ce qu'on appelle la méthode Beljanski.
Oui.
Et puis ensuite, je demanderai à Gérard Wedlich de raconter ce qui s'est passé un certain soir relativement
ça commence à l'aube. C'est à 6 heures du matin. Comme surrogatoire.
Oui, mais pour moi, c'est le soir. Alors, Monique Beljanski, que c'est que la méthode Beljanski?
D'abord, je tiens à dire que Mirko Beljanski est un chercheur fondamentaliste. C'était pas un petit rigolo qui s'amusait à chercher des médicaments pour faire de l'argent. C'est un homme qui a consacré sa vie à la recherche fondamentale et qui ne cherchait pas du tout des médicaments. Mais l'incidence du travail l'a conduit à trouver des molécules extrêmement importantes et intéressantes pour la thérapie de différentes maladies, et on ne pouvait pas, ayant la chance que ces molécules arrivent au cours des cours du travail, les laisser de côté. Donc on a consacré après une dizaine d'années à comprendre le mécanisme d'action, et il y a principalement 5 produits.
Alors je précise que vous dites « on » parce que vous étiez à la fois sa femme et son assistante.
Tout à fait. Nous avons travaillé pendant 40 ans ensemble, dont 20-25 ans à l'Institut Pasteur et plusieurs années à la faculté de pharmacie à Châtenay-Malabry, et ensuite dans un laboratoire privé soutenu par le CIRIS. Alors, il y a principalement 5 produits, 2 à vocation anticancéreuse, mais il faut dire que ce sont des produits isolés de plantes et qui ont la caractéristique de n'avoir absolument aucun effet secondaire. C'est même assez rigolo, parce que les ministres nous écrivaient des lettres, ça ne peut pas être des médicaments, car ça ne rend pas malade, et tout médicament se doit d'être toxique. Voilà. Et ça, c'était venu d'une conception absolument aberrante, autrefois, où on considérait que seuls pouvaient reconnaître des cellules cancéreuses, des molécules qui étaient très proches des cancérogènes, donc toxiques pour les cellules cancéreuses. En fait, ce sont des molécules naturelles, comme je vous ai dit, provenant de plantes, qui n'ont absolument aucun effet secondaire, qui ne pénètre même pas les cellules normales et qui ne pénètre que dans les cellules cancéreuses. Le mécanisme de cette caractéristique est en partie élucidé. Et l'une de ces molécules a en plus un très fort pouvoir antiviral, principalement contre les virus à ARN, c'est-à-dire l'hépatite C, le virus du sida, la grippe, et puis également, mais avec un petit peu moins d'efficacité, contre les virus à ADN, c'est-à-dire l'hépatite B en particulier. Il y a aussi 2 autres produits, l'un qui est ce sont des ARN fragments, qui sont des déclencheurs, qui n'ont pas un rôle par eux-mêmes, mais qui ont un rôle de catalyseur de la réaction de synthèse des globules blancs et des plaquettes, ce qui permet de soutenir très vigoureusement l'immunité d'un malade, que ce soit un défaut d'immunité par thérapie, que ce soit un défaut d'immunité par déficience de synthèse. Et ça marche vraiment très bien. Et enfin, le dernier produit est un produit qui est un régulateur biologique qui permet de rééquilibrer des fonctions que soit la pathologie, soit les traitements toxiques ont troublé. Alors, je tiens à dire deux choses qui me paraissent fondamentales et que très souvent les gens ignorent. C'est que presque tous les traitements classiques génèrent immédiatement des résistances. Que ce soit des résistances, là j'ai sous les yeux un article du Monde du 12 février de cette année, qui titre « Le développement du sida se heurte au développement de virus résistants ». Et c'est la grande pierre d'achoppement des traitements contre les virus et souvent contre les cellules cancéreuses. Or, dans ces cas-là, les produits mis au point par Mirko Beljanski restent parfaitement efficaces et permettent une solution au moment où il n'y en a plus par les méthodes classiques. Le deuxième point que je voulais dire aussi et qui me paraît essentiel, donc c'est pour la résistance des virus, mais c'est la même chose pour les cellules cancéreuses qui deviennent résistantes à la chimiothérapie ou à la radiothérapie. Et ce qui est important de savoir, c'est que ces produits se marient très bien avec justement les traitements classiques de chimiothérapie et de radiothérapie.
Ça, je crois que c'est très important.
Et ça, c'est très important. Et contrairement à ce que la presse et les pouvoirs publics ont prétendu, jamais Mirko Beljanski n'a détourné les gens de l'utilisation des thérapies classiques, parce qu'au contraire, il y a une synergie d'action entre les deux.
Alors donc, ces produits existent depuis plusieurs années.
Ça fait 17-18 ans à peu près.
Sont utilisés par des...
Ils ont été très utilisés en France avec beaucoup de succès et beaucoup de satisfaction. Et puis un jour, les pouvoirs publics, ils étaient à l'époque vendus en pharmacie comme préparation magistrale. Et du jour au lendemain, on a déclaré qu'il n'y avait plus besoin de préparations magistrales étaient illégales. Et on nous est tombé sur le dos. Et puis après, donc, on a continué en se disant c'est trop important et trop intéressant pour arrêter. Et là, il y a eu, comme disait Gérard tout à l'heure, à l'aube du 9 octobre, c'est ça, 9 octobre 96. Alors Gérard va prendre le relais pour dire ce qui s'est passé.
Qu'est-ce qui s'est passé sur 9 octobre 96
Le 9 octobre 96, c'était l'opération ISA 2. Ça a été baptisé par les forces de l'ordre ainsi. Vous savez, quand il y a une opération de police, avec un développement impressionnant de gendarmes, un village cerné où il y avait le laboratoire de recherche de Mirko Beljanski. Mais au-delà de ce village cerné, et là, c'est là qu'on a mis les menottes à Mirko Beljanski pour être un bienfaiteur de l'humanité, mais chez les malades, partout, jusqu'au domicile, chez moi, sur l'île d'Oléron, je viens spécialement à cette radio de l'île d'Oléron pour évoquer ce sujet, eh bien, à 6h du matin, les gendarmes sont venus me saisir mes gélules Beljanski sur ma table de nuit. J'ai été mis ensuite en garde à vue 20h, j'ai cru que la Gestapo revenait. Alors ça, c'est tout
vous,
à fait...
Vous et des dizaines d'autres personnes.
Ah oui, partout, chez tous les malades, partout dans toute la France, des forces déployées, c'était impressionnant.
C'est-à-dire que...
Chez moi, ils voulaient venir avec l'hélicoptère, maître chien, le GIGN, enfin la totale. C'était...
Dans toute la France, on a mis en garde à vue des gens qui étaient...
Des malades.
Des chercheurs.
Ou les malades, ou les utilisateurs.
Ou les utilisateurs.
C'est ça. Hein? Et l'objectif était de faire disparaître totalement ces produits du jour au lendemain.
Alors d'ailleurs, ça, vous en avez un témoignage écrit, en quelque sorte.
Mais l'OPJ Ketzinger, vous savez, le chef d'enquête, le déclare, à l'occasion d'un repas, on a les éléments par rapport à tout cela. Ben, il dit, moi j'avais pour mission de faire que tout s'arrête. Que tout s'arrête, que tout disparaisse. Et d'ailleurs, même dans la commission rogatoire, la dernière phrase qu'il écrit au juge d'instruction, il dit à la juge, Madame, il faut détruire tous les témoignages des malades, les preuves scientifiques, les dossiers saisis à l'Institut Pasteur de Lille, etc. C'est impressionnant.
D'ailleurs, quand ils ont pris le passeport de mon mari et le mien, Mirko était assez ulcéré. Il a dit, mais enfin, pourquoi me prenez-vous mon passeport? Et la juge a répondu, parce que nous ne voulons pas que vous risquiez d'aller à l'étranger faire ce que nous ne voulons voulons pas que vous fassiez en France.
Alors moi, vous comprenez, j'étais malade du sida, j'étais contaminé, je le rappellerai rapidement, en 85, par le sida en faisant un bouche à bouche à un noyé qui m'a ouvert
vous
les
étiez CRS, maître nageur sauveteur.
Et puis, au cours d'une réanimation intensive sur un noyé qui a duré une heure, là, il avait une barbe dure, sa barbe m'a ouvert les angles des lèvres, ça fait un contact plaisant sans prolonger, puisque lui est mort d'un œdème aigu pulmonaire. Hein, soyons clairs, c'est un contact plaisant sans. Et depuis cet accident.
C'est le mode de contamination le plus radical. Oui.
Et donc, c'est suite à cet accident, j'ai fait des démarches vers l'administration pour que les embouts de protection dans le sauvetage soient obligatoires, puisqu'ils existaient dans d'autres pays. Donc là, il y a beaucoup de sauveteurs qui peuvent me dire aujourd'hui merci pour cette démarche. Simplement.
Et beaucoup de sauvés aussi, d'ailleurs, oui, parce qu'autrement, on les aurait laissés mourir.
Bien sûr. Alors moi, je cherchais une solution de vie par rapport à ce problème, parce que j'avais un sida déclaré. Il faut bien préciser, déclaré, pas un séropositif. Comment un séropositif peut vivre jusqu'à 16 ans, 17 ans, on le sait aujourd'hui. Mais moi, j'ai 16 ans de recul par rapport à un sida déclaré, avec trois maladies opportunistes, herpès explosif, diarrhée permanente, candida albicans qui me rongeait tout le corps, la mort. Alors, comme vous êtes père de famille, vous avez quatre enfants, vous êtes grand-père trois fois comme moi, un homme heureux sans problème, etc., ça vous tombe ça sur la tête, c'est la fin du monde. Donc, c'est ainsi que j'ai rencontré par un médecin qui connaissait les travaux. Et c'est ce problème d'information que je disais tout à l'heure, cette citation de Marc Crousier qui est importante. Tout doit passer par l'information. Eh bien, grâce à cette information, j'ai rencontré Mirko Beljanski qui m'a demandé une petite lettre c'est-à-dire c'est le consentement éclairé que j'acceptais d'utiliser, d'être le premier utilisateur de ces produits par rapport au sida, parce qu'en 85-86, donc moi 86, où j'ai commencé le traitement, 15 avril 86, il n'y avait rien, pas d'AZT, heureusement sinon je serais mort, et il n'y avait pas de tous ces trithérapies, il n'y avait pas tout ça, il n'y avait rien. Moi je suis le premier survivant, donc on va dire illégal, du sida traité en monothérapie par les produits Beljanski, et ainsi vous pouvez le voir, Serge, face de vous, de 72 kilos que je faisais à l'époque, je suis passé à 80.
Je trouve que vous faites un peu fort en ce moment.
93 kilos aujourd'hui. Alors c'est quelque chose d'impressionnant. Les malades du sida qui savent que cette maladie se transforme en déporté, en mort vivant, c'est une maladie atroce, on se voit mourir. Bon, eh bien, je suis en pleine forme, j'ai des anticorps neutralisants dans mon organisme qui crèvent le plafond, et on a mis des témoignages dans la revue Dialogue, dont on parlera tout à l'heure, et en particulier de ce numéro hors série. Donc, je peux confirmer personnellement cette absence de résistance, puisqu'avec 16 ans d'utilisation de ce traitement, c'est pas résistant, c'est pas toxique. Les gélules ne sont pas...
Une sorte de résistance, c'est-à-dire que les cellules virus, malades ne, et les virus ne développent pas de résistance au traitement.
Absolument. Donc, il n'y a pas de résistance, il n'y a pas de toxicité. Parce qu'avec la quantité astronomique que j'ai absorbée de gélules au début, puisque maintenant je ne prends que 6 gélules par jour en traitement d'entretien, puisque je tombe jamais malade, pourquoi que je m'en priverais, Serge? Voyons. Je suis jamais malade, je sais plus ce que c'est que la maladie. Et le traitement est donc efficace. Alors le problème majeur de cela, vous voyez, il faut dire les choses telles qu'elles sont fortes. Vous savez, sur un tract que j'ai laissé ici à la radio et que les éditeurs pourront se procurer, j'ai intitulé ça un génocide par le silence, parce que c'est effectivement ça. Et vous avez des personnes comme par exemple Monsieur Boiteux qui était venu témoigner ici, Henri Boiteux a été venu témoigner sur les ondes. Ben, c'est quand même quelqu'un qui est directeur de recherche au CNRS, qui était administrateur pendant 11 années d'un institut de recherche sur le cancer à Villejuif. Lui, il dit, j'ai été guéri d'un cancer de la prostate en utilisant les produits Beljanski en synergie des traitements conventionnels. Et il déclare à un journaliste, quand j'entends les gens de l'ARC ou ceux du SIDAction qui ramassent de l'argent par millions en faire croire aux malades qu'il n'existe pas de médicaments fiables, alors qu'il en existe un pour le cancer comme pour le sida qui permet de tenir longtemps, j'estime que c'est un scandale médical encore plus grand que celui du sang contaminé. Alors ça, c'est quelque chose d'impressionnant, c'est pas nouveau. C'est une histoire, vous savez, d'argent. Moi, je sors pour être dans cette forme. 6 gélules par jour, je fais venir maintenant des États-Unis, ça fait 36 francs. Mais je prive les laboratoires pharmaceutiques de 600 francs et de trithérapie et de médicaments pour enlever les effets secondaires de la trithérapie par jour, remboursés 100% sécu. Et vous savez, j'ai été surpris aujourd'hui, avant de vous rejoindre, j'ai eu un contact avec un auditeur, d'ailleurs de Radio Courtoisie, qui me disait, vous savez mon ami, tout ça c'est pas nouveau. Parce que déjà en 1924, l'écrivain Céline, dans sa thèse de médecine consacrée à Samuel Weiss, qui était le père de l'asepsie connu pour ses travaux sur la fièvre puerpérale et l'action préservative des sels de chaux, eh bien, il disait dans sa thèse, supposez qu'aujourd'hui, de même, il survienne un autre innocent qui se met à guérir le cancer, il ne sait pas quel genre de musique on lui ferait tout de suite danser. Ce serait vraiment phénoménal. Ah, qu'il redouble de prudence. Ah, il vaut mieux qu'il soit prévenu, qu'il se tienne vachement à carreau.
Ben, c'est formidable.
C'est Céline, c'est prophétique. De 1924, et rien n'a changé. Alors c'est contre ces murailles, contre tout ça que nous nous battons, l'association CIRIS, qui signifie Centre d'innovation, de recherche et d'information scientifique. Et moi, comme je dis toujours, vous savez, il faut pas être pessimiste, parce que si je vous avais dit la veille de la chute du mur de Berlin qu'il allait tomber, personne ne m'aurait cru. Là, c'est un combat associatif, le bouche à oreille fonctionne. Je vous remercie, Serge, de nous accueillir donc pour parler de tout ça. Je peux vous dire que les dossiers, ça circule, les cassettes dans enregistrement, ça circule, et le contre-pouvoir se met tout doucettement en place, et c'est cette force tranquille. C'est avec cette force tranquille que nous allons gagner.
Parce que qu'il faut dire, Gérard, et que tu n'as pas dit, excusez-moi, c'est que les produits ont été totalement supprimés en France par cette action policière, et mais, ils sont partis aux États-Unis et maintenant ils reviennent via l'Angleterre parce que ça fait partie du marché commun, donc
sans aucun problème.
Donc alors, ils sont accessibles à tout un chacun.
Je me tourne maintenant vers Maître Autrive pour lui demander de nous tracer un tableau clinique de la situation juridique dans cette affaire. Qu'est-ce qu'on reproche à Mirko et à Monique Beljanski? Qu'est-ce qu'on reproche à Wedlich? Qu'est-ce qu'on reproche au CIRIS? D'abord, qui est inculpé dans cette affaire? Pourquoi et comment ça évolue?
Alors, la question est facile, la réponse l'est moins, parce qu'il y a plusieurs personnes mises en examen, il y a plusieurs étages. Il y a ceux qui produisaient les substances, il y a ceux qui les vendaient, il y a ceux qui en consommaient. Donc on voit qu'il y a, si vous voulez, on pourrait faire une distinction entre trois niveaux hein, de mise en examen. La première mise en examen, c'est évidemment l'exercice illégal de la pharmacie, parce que lorsqu'on met une substance qui a des valeurs thérapeutiques, eh bien on doit solliciter auprès de l'agence du médicament l'autorisation. Et cette autorisation est donnée suite à des essais cliniques in vitro et in vivo, selon des normes tout à fait précises. C'était l'ancienne agence du médicament qui délivrait l'autorisation mise sur le marché. Ça, c'est la première mise en examen. La deuxième mise en examen, c'est de faire une publicité illicite, commerciale, sur des produits qui n'ont pas forcément, qui sont pas considérés forcément comme efficaces par le pouvoir en place. C'est-à-dire qu'on dit qu'en fait, il y a tromperie sur la marchandise et il y a éventuellement administration de substances dangereuses. Alors voilà, en gros, le pôle principal des mises en examen, c'est surtout exercice illégal à la pharmacie qui va chercher, je dirais, une amende de 25 000 francs. Alors, donc je dirais que c'est une montagne qui va accoucher d'une souris. Mais
c'est-à-dire, depuis 4 ans, on a mobilisé le banc et l'arrière-banc de la gendarmerie, de la police, de la justice.
Pour accoucher d'une souris.
On a arrêté des gens, on les a mis en garde à vue, on les a emmenés. Je me souviens qu'il y avait une dame qui était venue nous raconter comment au petit matin, on l'avait emmenée alors qu'elle était malade. Elle avait, en plus,
un sida
déclaré provoqué par la transfusion, par le sang pourri qui était vendu, on sait dans quelles conditions. Elle a été emmenée au petit matin dans sa maison de campagne pour qu'on saisisse les gélules qui étaient dans sa maison de campagne à 200 km de là. Elle était ramenée à Paris, mise en garde à vue à Paris, où on a téléphoné à son mari en lui disant « Venez chercher votre femme », et quand le mari est venu chercher sa femme,
on l'a
arrêté, on l'a mis en garde à vue. C'était des méthodes gestapistes, absolument
gestapistes. Et le mari est inculpé.
Alors, tout ça, pourquoi? Pour un procès qui va aboutir en admettant que la justice décide d'obtempérer aux ordres du pouvoir et de la mafia pharmaceutique, ça va aboutir à des condamnations de 25 000 francs pour exercice illégal de la pharmacie. C'est ça que vous nous...
Oui, c'est ça. Si vous voulez, au-delà de cette condamnation, parce qu'on va essayer ensuite, à partir du 9 octobre 96, c'est ce qu'on reproche pénalement. Mais ensuite, on va essayer de noyer aussi bien donc la famille Beljanski que le CIRIS de procédures fiscales. C'est-à-dire essayer de démontrer qu'on a affaire, effectivement...
C'est ce qu'on a déjà fait.
À des gens qui profitent de cette situation... qui tire bénéfice. Or, non seulement on a gagné l'ensemble des procédures fiscales, mais en plus on a obtenu la condamnation du ministère des Finances. C'est quand même intéressant.
Et ce qui est aberrant, c'est que Mirko n'a jamais vendu quoi que ce soit. Il a inventé des produits, mais il n'a jamais vendu et il n'a jamais tiré profit. Il n'a jamais eu un franc. Le seul profit qu'il a eu, c'est d'avoir à sa disposition un laboratoire de recherche.
Madame Belgency, est-ce que je peux vous poser une question indélicate ou indiscrète?
Je vous en prie.
Je la pose comme ça.
Oui.
Quel est votre train de vie pour quelqu'un qui...
Je vis de ma retraite, c'est tout ce que j'ai.
Mais vous êtes propriétaire d'appartements à Paris, vous avez des maisons de campagne, un château.
Moi, je n'avais rien. J'ai hérité de quelques biens de mes parents que j'ai dû vendre, d'ailleurs, récemment, parce que j'avais trop d'impôts et trop de. Et j'ai un petit laboratoire à Ivry-sur-Seine qui représente, que nous avions acheté à l'époque 39 millions de centimes. Il y a 20 ans à peu près de ça, que nous avons nous-mêmes restauré et qui a été saisi par le fisc comment ça s'appelle
caution, enfin, garantie.
C'est ça, définitive, hypothèque définitive. Ah, voilà.
D'accord. Oui, donc, au fond, depuis 20 ans, vous vendez des médicaments interdits.
Je n'ai jamais rien vendu, et Mirko non plus.
Je me mets dans la position de la justice.
C'est Cobra qui a vendu.
J'aimerais préciser que Mme Belgency et le siège ne vendent pas des médicaments interdits. Hein.
D'abord, des produits n'ont jamais été interdits.
Pour qu'ils soient interdits, encore faut-il qu'il y ait une décision d'interdiction. Mais il n'y a pas...
Ils n'ont jamais été interdits, contrairement à ce qu'a dit la presse.
C'est-à-dire que, après avoir fait ce travail supposé pendant 20 ans, vous vous retrouvez à vivre de votre retraite.
Tout à fait.
Donc, c'est pas exactement comme si vous aviez été une putain de la République, par exemple.
Non. Ils ont d'ailleurs, j'ai eu des enquêtes fiscales et qui a montré qu'il n'y avait absolument pas d'argent rentré dans le foyer familial.
Vous auriez mieux fait de travailler pour Elf, à mon avis. Hein. Ça aurait été pour le Crédit Lyonnais, enfin, je vous le dis.
Vous savez, ça aurait donné moins de satisfaction morale.
Ça, c'est probable.
Comme cadeau de Noël à notre président de la République, à Jacques Chirac, j'ai adressé une lettre ouverte que j'ai mis d'ailleurs dans le numéro hors série de Dialogue. Et justement, j'évoque cette véritable forfaiture, puisque vous savez que Jacques Chirac était intervenu deux fois à la télévision juste avant, dans la fin de l'année dernière. Une fois à propos de la vache folle, pour la crise de la vache folle, pour dire que aucun impératif ne peut être placé plus haut que l'exigence de la santé publique. C'est ce qu'il avait dit. Aucun objectif économique, etc.
Parce que vous accordez de l'importance à ce que dit Chirac, apparemment.
Attendez. Moi, j'avais rebondi là-dessus. Et ensuite, quand il y avait eu le problème des affaires de Chirac, il était intervenu une autre fois pour dire la justice est indépendante et elle doit dire le droit. Et c'est là que j'ai rebondi sur ces deux questions, parce que évidemment, qui croit que la justice est indépendante? Puisque là, dans le cas de l'affaire Belgency qui nous préoccupe, nous avons relevé, en particulier, comme cette énormité que je vous ai dit tout à l'heure, que l'OPJ demande à la juge de détruire les pièces à conviction, ce qui est gravissime, mais les magistrats de la troisième chambre d'accusation de la Cour d'appel de Paris ont rendu le 18 juin 1999 cinq arrêts qui prennent en référence un arrêté ministériel inexistant. Et je cite, ces produits Belgency avaient été interdits par arrêté du ministère de la Santé du 5 octobre 1993. Alors je défie quiconque de me trouver cet arrêté du ministère de la Santé. Alors moi, vous savez, j'ai été chercher au journal officiel, j'ai rien trouvé. Je me dis, t'as peut-être mal cherché. Bon, je vais écrire. Alors j'ai écrit. Et dans une correspondance, en date du 20 juillet 1999, les services des journaux officiels de la République française nous confirment que cet arrêté n'existe pas. Alors c'est quand même impressionnant de voir des choses pareilles. Ça se passe en France. Et moi, c'est pour cette raison que lorsque j'ai été entendu avec Maître Otrive, enfin, parce que j'étais un des derniers mis en examen, n'est-ce pas, maître, à être entendu, c'était le 16 juin 1998, par Madame Anne Tarelli, qui était il y a eu quatre juges d'instruction. Vous vous rendez compte dans cette affaire? Quatre juges d'instruction. Il y a de quoi à ce que les pièces s'égarent, hein. Bon. Eh bien, ça, c'était la troisième. Eh bien, lorsque j'y étais, des questions tout à fait banales et tout. Depuis quand vous êtes président? Depuis quand? Mais très... Elle voulait pas aller sur le fond du dossier. Alors qu'est-ce que j'ai fait? Je m'y attendais. J'ai remis un volumineux dossier d'information ce 16 juin 98 et toutes les pièces, que ce soit mon témoignage personnel, le témoignage d'autres malades, mon intervention vers le président Mitterrand qui dérange énormément, bien entendu, et d'autres documents sont passés et c'est dans le dossier et il faudra bien en parler du 19 au 23 puisque les témoins, moi j'ai exigé d'être mis en examen, comme je vous l'ai dit, que cette affaire représente quand même 18 tomes, n'est-ce pas, maître, de 10 cm.
22
maintenant. 22 tomes de 10 cm d'épaisseur, c'est quelque chose d'impressionnant.
Bon, mais alors, ça, on en a déjà parlé, et c'est intéressant de le rappeler, mais je voudrais quand même qu'on arrive au cœur du problème. Alors, je ne sais pas si je peux me tourner vers maître Autriche pour lui demander ça, mais comment vous expliquez-vous, en droit, un tel déploiement de force et un tel acharnement?
Alors, au début, quand je suis intervenu dans ce dossier, je ne comprenais pas. Je me disais, il y a un exercice illégal de la pharmacie, et à partir de là, effectivement, on va faire une opération ISA 2 sur l'ensemble du territoire français, dans l'ensemble des trousses à pharmacie de chaque malade.
Ça, c'est des choses qu'on ne fait pas pour trafic de drogue.
Ce qui ne s'est jamais vu. C'est dire qu'il doit y avoir péril en la demeure. Quel était le péril en la demeure? Eh bien, des citoyens qui avaient choisi d'utiliser des substances qui leur faisaient du bien. Et après tout, je ne sais plus qui est-ce qui disait ça, mais peut-être que M. Valdis, je vais pouvoir me le dire, mais la meilleure des ordonnances, je crois que c'était M. Béjanski, oui, d'ailleurs, qui disait, après tout, l'important chez le malade, c'est bien son propre jugement. Et donc, les malades considéraient que les substances Béjanski leur faisaient du bien, ils n'avaient pas l'effet secondaire.
En plus, ils les payaient eux-mêmes, ils ne les faisaient pas payer par la sécurité sociale, parce que alors, ça, c'est important.
Je dois dire qu'au-delà du fait qu'ils payaient eux-mêmes, il y avait également, parce que tout était relativement bien organisé d'un point de vue philanthropique, il y avait aussi des associations qui venaient en aide à certains malades qui n'avaient pas les moyens. Or, on a dit qu'effectivement, les traitements Béjanski coûtaient que 2000 francs par jour, ce qui est totalement faux. Hein. Ça, c'est l'AZT, c'est le traitement de l'AZT, d'ailleurs, contre lequel j'ai déposé plainte pour une autre procédure et pour une autre personne. Bon. Donc, alors voilà, donc on a péril dans la demeure, apparemment, et on va accoucher, je dirais, dans quelques jours, d'une souris. Alors ça, c'est, je dirais, une atteinte à la liberté des individus. Parce que la liberté des individus, c'est pas uniquement d'obéir. Il faut également, je dirais, quelquefois, désobéir, et puis utiliser des produits qui vous font du bien. Ça, c'est la première observation. Donc, le combat va commencer.
On ne veut empêcher les gens de prendre les produits Béjanski.
Aguerri ne rapporte rien.
Au nom de leur santé, en disant il faut protéger votre santé, elle est en danger, parce que les produits Béjanski, ça. Mais dans le même temps, l'État vend du tabac dont on sait que c'est un poison.
Tout à fait.
Il vend de l'alcool dont on sait que c'est un poison. Et si n'importe quel kidam a envie de s'envoyer 10 paquets de Gauloises par jour, personne ne l'en empêchera.
Tout à fait.
On ne viendra jamais saisir des paquets de Gauloises dans sa chambre à coucher.
Et vous avez entièrement raison. Et je dirais même, parce que pour la cigarette et pour l'alcool, l'État ne fait rien, mais il y a des décisions où l'État fait quelque chose. Je pense notamment à la crise de la vache folle. L'État non seulement n'a rien fait, mais a facilité quand même, je dirais, l'importation du bétail britannique. Donc ça, on y reviendra. Mais je dirais que c'est non seulement, c'est pas je n'ai rien fait, c'est j'ai fait
c'est
quelque chose pour
rien
que vous
fait,
puissiez
c'est qu'ils
consommer
ont,
de la vache
folle. Ils ramassent beaucoup d'argent par le tabac et par l'alcool. Donc c'est pas non plus une position complètement neutre de l'État.
Absolument. Mais je dirais que là, on s'écarte un peu du débat oui, Béjanski. Quel était le péril dans la demeure? On a des substances qui sont faites à base de plantes. C'est dire qu'on va mettre en péril non pas la demeure, mais l'intégralité, je dirais, des grands laboratoires pharmaceutiques qui n'ont pas pour but de vous soigner, enfin à mon avis, c'est ce que j'en
sors. De vous faire consommer.
Mais c'est de vous faire consommer des médicaments. Alors voilà, voilà un peu, si vous voulez, ma réserve. Alors après, on a découvert dans le dossier que le ministère de la Santé avait joué un rôle non négligeable, dans cet arrêté notamment, qui a été pondu sur mesure, qui n'a jamais été publié.
Par les Bernard Kouchner.
On a également le rapport de M. Jean-Paul Lévy de l'Agence nationale de la recherche sur le sida. Et si vous connaissez un jour le résultat de leur recherche, eh bien écoutez, faites-nous les savoir, parce que ça coûte des millions aux Français. Et rien n'a été trouvé sur le sida. Et là, on avait, ce qui me choque un peu, c'est que même si on a un doute sur l'efficacité des produits Béjanski, encore faut-il le vérifier. Or là, on interdit, et apparemment, des milliers, voire des plusieurs dizaines de milliers de malades utilisent ces produits. Donc je dirais que non seulement il fallait pas interdire ces produits, il fallait pas faire de perquisition, mais il fallait en plus faire des recherches scientifiques pour essayer d'évaluer ces substances, ce qui n'a pas été fait. Et là, il y a une non-assistance à la santé en danger de la part du ministère.
Alors, ça a été fait, mais ça a été pas fait par le ministère.
parce que les produits ont été, l'activité des produits a été confirmée dans différents pays, en Suisse, en Belgique, oui. Et aux États-Unis. Mais ça n'a pas été pris en compte par le ministère.
Moi, j'irais même plus loin, parce que rappelez-vous, qui va confier à la NRS cette mission d'expertiser, c'est quand même la Direction générale de la santé.
Oui, c'est eux-mêmes.
Et à l'époque, il y avait une complicité, je dirais. Absolument. Et d'ailleurs, au même moment, on a la crise du sang contaminé, on a la vache folle, on a le produit Belzhansky, on a un certain nombre de crises qui apparaissent de par, je dirais, l'incurie de cette Direction générale de la santé.
Alors, ce que je vous propose, c'est de donner la parole aux auditeurs.
Je ne dirais pas l'incurie, je dirais la volonté négative, la volonté d'entraver la santé des gens.
Et personne n'a osé expertiser sérieusement en France produits, à croire que nous avons ici que des ignares.
On va y revenir, ça, Gérard Wedlich, après, mais je voudrais qu'on donne la parole aux auditeurs pour des questions auxquelles vous répondez, si vous voulez, à mesure.
Les médicaments guérissent-ils tous les cancers et où peut-on se les procurer?
Oui, guérir. Le mot guérir, ce ne sont les malades qui peuvent témoigner. Oui. Donc dans le numéro hors série là que je viens de faire paraître, j'ai mis une quarantaine de témoignages de malades avec le nom des malades, leur adresse, leur téléphone. Et si eux utilisent le mot guéri, par exemple Jean Le Guen, qui a 18 ans de recul par rapport à un cancer du pancréas, en 2 mois vous êtes mort. Ça fait 12 ans qu'il n'utilise plus les produits Belzhansky. Je crois quand même qu'il peut dire je suis guéri. Que Monsieur Boiteux, directeur du CNRS pendant 10 ans, dise de son cancer de la prostate il est guéri, et je pense qu'il peut le dire. Moi, vous voyez, par rapport à mon sida, 16 ans de recul, dans la forme que vous me voyez, eh bien écoutez, je ne vais même pas, pour ne pas laisser sourire, dire que je suis guéri. Mais je le sens dans ma chair, évidemment.
Il y a un témoignage d'une auditrice qui nous dit « Nous soignons notre chat, 8 ans, âgé d'une tumeur maligne et opéré il y a 3 mois avec un pronostic très négatif. Nous avons contacté les États-Unis. On nous a donné l'adresse d'un vétérinaire préconisant les produits Belzhansky. Oui, le chat est en pleine forme, pas de récidive pour le moment. » Le vétérinaire en est le premier surpris.
Oui, effectivement, les États-Unis ont lancé aussi une gamme de produits vétérinaires adaptés aux petits animaux.
C'est-à-dire les gélules beaucoup plus petites.
Parce qu'il faut savoir qu'il y a énormément de chats qui ont l'équivalent du sida, presque un chat sur 3, et il y a beaucoup de petits chiens qui ont des cancers mammaires.
Mais les auditeurs, vous savez, qui se procureront ce numéro hors série là, prix coûtant, donc contre 20 timbres à 3 francs, ils auront 140 pages de lecture, ils seront surpris, ils auront des noms de malades avec des gens qui sont peut-être leurs voisins.
Et vous, dans votre revue, vous donnez l'adresse où
tout à fait, tout à fait. Oui, l'adresse naturelle. Avec cet ouvrage, vous savez tout. Et comment obtenir les produits Belzhansky, prendre sa santé en main, comment connaître le nom d'un médecin, vous saurez tout.
Et même ce qui est rare, c'est que les malades ont le courage de donner leur nom, leur adresse et leur numéro de téléphone pour que les malades puissent se rassurer et se concerter entre eux.
Donnez-nous donc l'adresse et redonnez l'adresse de la où on peut se procurer la revue.
À Siris, Siris, C-I-R-I-S, Siris,
oui.
16 chemin de Saint-James, 16 chemin de Saint-James, J-A-M-E-S, 17 550, Dolus, D-O-L-U-S. Dolus d'Oléron, c'est sur l'île d'Oléron. Moi, je suis venu spécialement de l'île d'Oléron pour parler de tout ça. Et là, les gens, suffit.
C'est pas, ça fait 2 fois que vous le dites, c'est pas la muraille de Chine.
C'est pas à côté, Serge, voyons.
C'est bien.
Et quand je m'en vais de chez moi, je peux vous dire que le courrier s'amoncelle là-bas. Heureusement que j'ai des bénévoles, je les remercie d'ailleurs au passage, qui répondent au courrier. Vous savez, encore, je les ai eu au téléphone tout à l'heure, ils m'ont dit une cinquantaine de demandes de courrier aujourd'hui, de ce type d'information. Alors ça, c'est tout simple, mais surtout, je le dis et j'insiste, parce que j'ai 3 lettres encore en souffrance de gens qui, tellement choqués par ces informations, me mettent les timbres, m'envoient l'enveloppe et ne mettent pas leur adresse.
C'est peut-être le cas de la...
j'en ai 3.
C'est peut-être le cas de l'auditeur qui écrit. À la suite de la dernière émission, j'ai demandé une documentation sur les produits Belzhansky, accompagnée de 3 carnets de timbres et je n'ai rien reçu.
Ah ben écoutez...
Renvoyez en mettant votre adresse en lien.
Oui, même si ce monsieur dit qu'il a envoyé 3... écoutez, on le croira sur sa bonne foi.
Ah ben les auditeurs de Radio Cantonie n'ont
jamais... Oui, non, mais justement qu'ils disent mais si vous j'en ai envoyé, je n'ai pas reçu.
Écoutez, si j'en ai plus d'une dizaine, j'arrêterai, parce que on travaille déjà à prix coûtant. À 2 carnets de timbres, c'est pas... Voilà.
Quel est le degré de reconnaissance des produits Belzhansky à l'étranger?
Monique.
Vous parlez d'une reconnaissance officielle ou d'une reconnaissance des malades? Parce
non,
que
une reconnaissance officielle.
Du moment qu'il n'y a pas eu de suite en France à la demande d'AMM, puisque la police a pris tous les dossiers et a tout arrêté, aux États-Unis, les produits ont été acceptés comme
compléments
alimentaires et il n'y a pas eu de recherche.
Par la FDA.
Oui, il n'y a pas eu de recherche de reconnaissance officielle parce qu'il faut savoir aussi que obtenir une AMM avec des produits naturels, c'est à la fois très risqué parce que on est mal protégé et c'est très long et très coûteux. Donc actuellement, il y a un processus de synthèse du produit le plus intéressant, l'anticancéreux antiviral, qui est en route. Et ce sera la molécule pour laquelle il y aura une demande d'AMM en bonne
forme. Tu peux revenir vers la France.
C'est la suite de logique de ça. C'est pouvez-vous nous dire le coût des produits belgiens?
C'est très variable. Ça se situe entre la prévention et un traitement très lourd.
Un traitement, oui.
Bah oui. Moi, vous voyez aujourd'hui, si j'ai lu par jour 36 francs par jour pour être dans la forme que je suis, mais au début, ça me revenait à peu près 2500 francs par mois. Aujourd'hui, ça fait à peu près 1000 par mois. Vous voyez. Donc, c'est très variable. En prévention, par exemple, ça peut être 300 francs. Mais pour un traitement lourd, ça peut être 3500.
Oui.
Il y a une fourchette qui varie selon la gravité. Plus les malades viennent frapper à notre porte pour utiliser ces produits tôt, moins le traitement sera onéreux, c'est évident. Mais de toute façon, le grand problème des produits belgianski, c'est qu'ils ne sont pas assez chers. Et c'est pour cette raison qu'ils n'intéressent pas les laboratoires pharmaceutiques. C'est ça que les gens doivent comprendre.
Et alors, je voudrais qu'on revienne sur le procès. Je voudrais retourner vers Maître Autrif, parce que il y a quand même une question qu'on n'a pas évoquée pour l'instant. C'est la question des plaignants. Qui est plaignant? C'est c'est l'État français contre Belgianski.
Alors,
c'est l'ordre des pharmaciens.
Il y a les ordres. Il y a les ordres, c'est-à-dire l'ordre des pharmaciens qui se constitue partie civile. Il y a également des associations représentatives, par exemple Aide.
En quoi ça les concerne?
C'est tout le problème de la justice française, c'est-à-dire que vous avez la possibilité pour des associations qui sont reconnues, soi-disant, d'utilité publique, de se constituer partie civile au nom des leurs. Donc, Aide doit considérer qu'il est victime, qu'elle est victime vraisemblablement des agissements des époux Belgianski et du Cyrus pour se constituer partie civile. Alors, je veux dire qu'il n'y a pas de victime, pour répondre à votre question. Il n'y a que des ordres. Des ordres en deux mots.
Il n'y a pas personne n'a dit nommément. Là, par exemple, j'ai un auditeur qui dit ma femme a utilisé les traitements Belgianski en 96, elle est décédée au bout de 16 mois de traitement.
Ça dépend ce qu'elle avait, ça dépend les doses qu'elle a eues. Il y a quelques médecins, par exemple, qui prescrivent une ou deux gélules parce que les gens disent on n'a pas beaucoup d'argent, etc. Ouais. Qu'est-ce que vous voulez faire avec une ou deux gélules réparties dans tout un organisme?
Mais il n'y a pas. Ce que je veux dire, c'est
et puis il y a des faux produits. Alors les gens disent on prend les produits Belgianski et quelquefois on s'aperçoit qu'ils achètent les produits en Suisse ou en Belgique. Or ce sont des contrefaçons et ils se croient durs comme fer qu'ils prennent les produits Belgianski.
Mais il n'y a pas. La question que je voulais poser à Maître Autrif, c'est celle des plaignants. Il n'y a pas d'individu qui dit moi, voilà, je me suis soigné ou ma femme s'est soignée.
Je croyais qu'il y en avait deux.
Oui, il y a deux personnes qui se sont constituées partie civile et qui ont utilisé les produits Belgianski, mais qui se portent très bien, qui sont encore en vie. Donc, qui se sont constituées partie civile, mais qui ont ont déposé plainte également contre le médecin prescripteur. Parce qu'il y a aussi ça. Il y a un médecin qui est intervenu pour leur prescrire des produits Belgianski. Alors, pour la petite histoire, ce médecin prescripteur a bénéficié d'un non-lieu. C'est-à-dire qu'il n'y a plus de lien entre la substance et le délit initial.
C'est-à-dire que la poursuite a fait l'objet d'un non-lieu contre le médecin.
A été abandonnée, oui.
Mais contre le fournisseur du médicament, du produit.
Mais on a conservé effectivement la partie civile contre le médicament.
C'est formidable. Donc,
c'est formidable.
Contre le produit.
Je veux dire que dans cette affaire, vraisemblablement, le médecin qui a bénéficié d'un non-lieu, c'est aussi en guise de remerciement. Vous voyez, quand vous collaborez à la justice française, vous pouvez quelquefois bénéficier d'un non-lieu, je dirais, d'opportunité.
Qu'est-ce que vous attendez de ce procès? Est-ce que vous allez jouer selon la technique, à moins que vous ne vouliez pas en parler, ce qui est votre droit le plus strict, ne pas dévoiler vos batteries, mais est-ce que vous envisagez de pratiquer ce que Vergès a appelé la stratégie de rupture, en quelque sorte, c'est-à-dire de dire, au fond, il faut inverser ce procès. C'est pas le procès contre Beljanski, c'est le procès que Beljanski fait à un État qui n'a pas accompli sa mission, qui est de protéger la santé publique, au service d'intérêts qui sont des intérêts financiers. Je fais une parenthèse pour dire que Sylvie Beljanski, qui nous écoute de New York par Internet, dit « La reconnaissance existe au niveau de tous les scientifiques à l'étranger, le Rockefeller Center, etc. Mmh. » Donc il y a une reconnaissance scientifique de la validité des produits Beljanski, en tout cas aux États-Unis.
Et il n'y a jamais eu non plus aucune publication qui disait que les produits étaient, ou que la théorie même qui montre le fonctionnement de ces produits n'était pas valable. Ah. Autrement dit, on a vraiment essayé de supprimer toute cette progression et cette avancée dans le domaine thérapeutique sur des bases de mensonges, en disant les produits sont interdits, ça n'a pas d'efficacité, alors que ça a été démontré à l'étranger que ça avait une parfaite efficacité, que c'est des produits de charlatans, alors que le CNRS a tout de même financé jusqu'au bout ce travail qui a été fait dans le cadre, Mirko était directeur de recherche au CNRS, alors si c'était un charlatan, pour qu'est-ce qu'on l'a financé pendant 40 ans et moi aussi, bonne comme question. Son assistante au CNRS. Enfin, c'est un tissu d'incohérence et de mensonges.
Maître Autrive disait que c'est la montagne qui va accoucher d'une souris, mais c'est vrai que ça va être une mascarade de justice. Parce que, écoutez...
On est habitué. On peut pas préjuger. C'est
écoutez,
ce que je veux dire.
Ça risque de... Oui, ça risque fort, parce que, vous savez, on peut dire que ce procès Beljanski, c'est presque un procès en sorcellerie, parce qu'on vit un peu au Moyen-Âge, là. Vous avez quand même le conseil de l'ordre des pharmaciens qui dit « Il s'agirait de substances mystérieuses ». Qu'est-ce que ça veut dire, ça?
Ils ont qu'à les acheter, les analyser, si vous voulez.
Mais non, mais enfin, ça veut dire qu'ils n'ont pas lu les publications, ça veut dire qu'ils ne connaissent pas les brevets, ça veut dire, enfin, c'est invraisemblable.
Alors moi, j'aimerais revenir sur trois points avant d'aborder le problème de la rupture, la théorie de Vergès, c'est-à-dire, un, on exige des produits Beljanski, des publications, qui ont été faites, je crois qu'il y a plus de 130 publications qui n'ont jamais été contestées. Ça, c'est la première chose. Moi, je tiens à faire remarquer que l'année dernière, un tiers des médicaments qui avaient été dûment autorisés par une AMM, une autorisation de mise sur le marché en France, ont été retirés. Oui. C'est dire qu'un tiers des médicaments subventionnés par l'État, etc., n'avaient apparemment aucune vertu thérapeutique alors qu'elles avaient obtenu les autorisations.
Il y a pire, je crois que la thalidomide avait eu une autorisation de mise sur le marché.
Ça, c'était ma première observation. La deuxième observation, c'est qu'aujourd'hui, le retour au Moyen-Âge, l'Inquisition, parce que ça fait peur, effectivement, au laboratoire, on s'aperçoit que l'argile qui appartient à tout le monde, qui appartient aux Africains, qui est sous leurs pieds, etc., eh bien, l'argile ne peut plus être utilisée naturellement parce que ça vient d'être inscrit à la pharmacopée. Donc aujourd'hui, lorsque vous prendrez de l'argile chez vous, vendu Smecta, enfin le Smecta encore, ça appartient à un laboratoire pharmaceutique, mais lorsque vous prendrez de l'argile naturelle, eh bien, vous ferez de l'exercice illégal de la pharmacie. Alors il faut le savoir, c'est la troisième chose.
C'est fabuleux.
Mais on peut aller plus loin dans le raisonnement. L'eau d'Évian qui fait du bien, je dirais, aux reins, c'est le début de l'exercice illégal de la pharmacie. Alors, la théorie de rupture, la théorie de connivence. Alors, est-ce qu'on va être dans la connivence? Parce que Vergès avait dit rupture, mais il avait dit connivence. C'est-à-dire connivence, lorsque vous êtes d'accord avec l'accusation, lorsque vous reconnaissez au pouvoir en place la possibilité de vous juger selon des règles, ou rupture, c'est-à-dire nous ne sommes pas d'accord avec le chef de mise en examen. Eh bien, je crois que dans tout ce qui concerne les malades, nous ne sommes pas d'accord. Nous allons dire non seulement nous ne sommes pas d'accord, mais en plus, nous prenons effectivement l'utilisation des produits Beljanski, parce que lorsque vous êtes confronté à la mort, et j'aimerais revenir d'ailleurs sur le témoignage du malade qui aurait utilisé les produits Beljanski, dont la femme serait malheureusement décédée. Le produit Beljanski, on n'a jamais dit que c'était un produit miracle.
Ouais. C'est évident, ça.
C'est pas un produit miracle. Donc c'est un produit qui s'inscrit également, je dirais, dans un schéma thérapeutique. Si vous avez des gens qui ont pris, par exemple, beaucoup de chimiothérapie pendant 3 ans et qui, en bout de course, viennent exiger, ce qui était le cas de François Mitterrand, des produits Beljanski. Le produit Beljanski n'étant pas miracle, ne fera pas de miracle.
Mais on peut ajouter
aussi
que...
Mais ça donne quand même un confort de vie Et c'est très important, oui. Cela, c'est-à-dire, c'est la dignité du malade.
Absolument, le libre choix du malade.
Voilà.
Mais moi, j'aime bien là-dedans. C'est que, quand on nous dit, ce que dit cet auditeur, ma femme a utilisé ces produits pendant 16 mois et elle est morte. C'est une tragédie personnelle. Oui. C'est très douloureux, je le ressens évidemment. Mais je pense qu'il y a... moi, je peux dire que ma grand-mère est morte d'un cancer. Je les ai vues, elles étaient dans les hôpitaux officiels, soignées par la médecine officielle. Elles n'ont jamais pris aucun produit Belzanski parce que ça n'existait pas à l'époque. Et elles sont mortes toutes les deux. Et les produits officiels, les médicaments et les traitements officiels qu'elles ont pris ne les ont pas sauvées. Donc, il n'y a pas un produit qui ne réussit pas.
100%. En biologie, il n'y a pas de 100%. Voilà. De toute façon.
Et on ne peut pas dire que les produits Belzanski soient des produits qui font de la concurrence à des produits qui, eux, seraient formidablement efficaces et réussiraient dans 100% des cas. Ce n'est pas vrai.
D'ailleurs,
la trithérapie, il y a des dizaines et des centaines de gens qui meurent
tous les ans. Quand Mirko est allé à l'agence du médicament et qu'on lui a proposé de faire des placebos, il a refusé. Parce que les placebos, c'est tromper un malade, c'est lui faire croire qu'on le soigne alors qu'on ne lui donne rien du tout. Et il a proposé d'évaluer le produits comparativement aux produits classiques. Et là, il s'est fait jeter.
Bien sûr.
Mais vis-à-vis de la législation pure, vous savez, moi, la juge d'instruction, elle n'avait pas d'os à ronger sur moi quand elle m'a entendu, là, quand elle m'a reçu. Et le seul endroit où elle cherchait à me coincer, elle m'a dit, qu'est-ce que vous faites, monsieur ? Elle m'a dit, je fais de la publicité. Ah, j'ai dit, pardon, madame ? Ah, j'ai dit, moi, je ne fais pas de publicité, je fais de l'information. Elle me dit, expliquez-moi la différence. Ben, je lui dis, madame, il y a deux définitions dans le dictionnaire. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise, Serge ? Il fallait bien que, effectivement, il y a deux définitions sur ce propos-là. Et ce que fait Cyris, nous faisons de l'information, nous disons la vérité. Et à ce moment-là, les malades qui témoignent, si moi je dois être une publicité vivante, ben, alors à ce moment-là, oui, je suis une publicité vivante. Mais valait-il mieux que je meure d'une manière légale ou être un survivant illégal?
Pour le système, il valait mieux que tu meurs, ça c'est évident.
Eh bien nous, je dis, nous respectons scrupuleusement l'article 223.6 du code pénal en portant assistance aux personnes en péril devant les maladies mortelles. C'est
alors,
ce que fait ça.
Voilà, exactement, un exemple parfait, une illustration parfaite de ce que vous venez de dire, Gérard, c'est la lettre de le fax d'un auditeur de Shell, qui nous dit « Merci à la famille Belzanski pour son travail. Ma mère, habitant Biarritz, était atteinte d'un cancer du poumon et de plusieurs métastases osseuses découvertes en 1996. Grâce au témoignage d'un malade paru dans le journal La Une, qui a eu le courage de donner son adresse, nous avons réussi à obtenir l'adresse d'un médecin vendéen, puis du Sud-Ouest, qui a enfin pu prescrire. Nous avons commandé aux États-Unis ces produits que ma mère a pris jusqu'en novembre 1997 et qui la maintenait en grande forme à la surprise de son pneumologue. » Elle est entrée à l'hôpital pour une jambe cassée. On lui a interdit de continuer à prendre ses compléments alimentaires, entre guillemets. En 6 semaines, le cancer l'a rongée totalement. Le 1er janvier 1998, j'ai eu de la peine à la reconnaître. Elle est décédée le 28 janvier 1998. Merci à vous et honte aux officiels qui ont laissé mourir ma mère. Alors, ce genre de témoignage, il n'est pas dans votre...
Non.
On vient de le recevoir à l'instant à la radio.
Mais ça m'intéresse. Il m'intéresse.
Il n'est pas dans dialogue. Mais ce que je voudrais dire, c'est que... Moi, j'ai pas parlé des produits Belzanski pour des raisons médicales au début. J'ai parlé des produits Belzanski, de l'affaire Belzanski parce que j'étais révolté par le coup de Gestapo qui amène des gendarmes le matin chez des malades. Bah, bon, ça me paraissait une utilisation scandaleuse de la gendarmerie. Et vraiment, la façon dont l'État utilise en ce moment les forces de l'ordre,
vous
est
savez
quelque
que
chose de révoltant.
Il y a des gendarmes, comme j'étais en garde à vue, qui m'ont dit j'ai honte.
Bien sûr. Donc c'est pour ça que j'en avais parlé au début. Et puis ensuite, en m'intéressant au sujet, quand Gérard Veldich m'a apporté des documents, j'ai commencé à voir les témoignages des malades. Et là, on est obligé de dire qu'il se passe quelque chose, parce que c'est sans exemple qu'un produit médical suscite une telle quantité, une quantité aussi phénoménale de témoignages, et de témoignages de... C'est pas n'importe qui, je veux dire, il y a des gens qui donnent leur adresse, c'est des gens qui donnent leur nom, leur adresse, leur numéro de téléphone, leur photographie. Je vois Madame Henriette Boucher, cancer du sein, 14 ans de recul. Je vois
qui sera derrière moi, d'ailleurs, au procès.
Cancer du larynx, cancer de la vessie, leucémie avec autogreffe. Et tous ces gens-là disent, moi, je m'appelle Monsieur Claude Fazillot à Loumo. J'ai été
depuis 9 ans, je surviens à un plasmocytome. Et il montre la photo, ces deux photos, avant le, pardon, le traitement et après. Et on voit qu'il y a, en tout cas, des gens qui ont été... Je ne parlerai même pas de sauver, parce qu'il peut y avoir des guérisons miraculeuses ou inexplicables, mais qui ont été rendus à leur dignité de malades, se combattant, menant leur propre combat pour leur propre santé. Et ça, je peux témoigner, moi, que c'est quelque chose de capital. Quand on se prend en main dans une maladie comme ça, j'ai connu cette expérience, ça joue, à mon avis, un rôle immense dans la guérison. Si on se mobilise soi-même avec les méthodes qu'on a décidé de choisir pour se soigner, eh bien, on a déjà gagné une partie du combat. Et ce qui est révoltant, c'est de voir cet État qui est incapable d'assurer le minimum des fonctions qui sont les siennes. L'ordre public, le respect de la loi, le respect de l'égalité des citoyens devant l'impôt, le respect de la dignité la santé, humaine et de la santé. Cet État qui est incapable de faire ça, est capable de mobiliser la police et la gendarmerie pour aller emmerder des gens qui sont déjà dans le désespoir parce qu'ils crèvent d'une saloperie de maladie, que les milliards de milliards de milliards qui sont dépensés chaque année dans une prétendue recherche scientifique s'avère incapable de guérir.
Non, je dirais pas une prétendue recherche scientifique. Je pense que chaque fois qu'un chercheur trouve quelque chose qui est un vrai progrès, mais qui nuit aux intérêts de l'industrie pharmaceutique, c'est là où il est coincé. C'est pas au niveau de la recherche, c'est au niveau de l'application et de la vente des produits par l'industrie. Parce que il faut savoir que les experts en France sont à la fois payés par l'industrie pharmaceutique et sont des officiels chargés de faire les expertises officielles. Donc comment voulez-vous qu'il fasse une politique autre que celle qui sert les intérêts de l'industrie pharmaceutique?
Vous conviendrez avec moi que c'est intolérable de voir ce procès se dérouler le 19 mars prochain, quand on sait ce qui s'est passé, par exemple, à l'ARC, où on a l'État qui prélève des impôts avec lesquels il est censé financer aussi la recherche scientifique, a laissé un voyou, un gangster, un voleur franc-maçon, monter une association de toutes pièces pour piquer le fric des malheureux en leur faisant peur et en leur faisant croire qu'ils allaient acheter un droit à la santé en cotisant à l'ARC. Il a volé ce fric, il a distribué à des politiciens qui, et les mêmes gens aujourd'hui sont à la pointe du combat contre une association qui fait exactement le contraire. C'est quelque chose d'intolérable. Oui. Ça devrait faire descendre des milliers de gens dans la rue, cette affaire.
C'est pour cette raison que je suis un peu surpris que la Ligue contre le cancer, bon, l'ARC, on connaît ce scandale, c'est
elle
effrayant.
Elle est pas partie civile au moins, l'ARC.
Non, ils sont restés dans leur trou. Mais la Ligue sur le cancer, oui. Et là, nous avons eu un courrier aujourd'hui, intéressant. Parce qu'il y a des gens qui ont cotisé à la Ligue, qui sont en train de harceler la Ligue et de dire pourquoi vous vous êtes mis partie civile dans cette affaire. Ouais. Alors des réponses sont venues du bout des lèvres en disant c'est pour avoir simplement accès au dossier. Ben, c'est compréhensible.
Vous avez qu'à se faire inculper.
et là nous avons une petite correspondance un peu plus intéressante, c'est que la Ligue commencerait à porter de l'intérêt. Ah, au produit, alors, on va voir, on verra bien, mais en attendant, on a une petite correspondance que je vous montrer, là c'est touchant.
Alors, il nous reste deux minutes, donc on ne peut pas en dire beaucoup plus. Est-ce que vous souhaitez que les citoyens, les auditeurs de Radio Courtoisie, les citoyens assistent au procès, est-ce que ça vous paraît souhaitable qu'ils viennent?
Moi, ça me paraît toujours souhaitable que la justice soit ouverte, hein, qu'elle soit transparente. Alors, lorsque je disais je défends les citoyens, parce qu'on peut tous être malade. Mmh. On peut tous souffrir d'un cancer. Et moi, ce qui m'a un peu révolté, comme vous, c'est que lorsque les malades ont été arrêtés, ensuite sont descendus dans la rue. Vous connaissez beaucoup de malades, beaucoup de personnes qui descendent dans la rue pour obtenir leurs produits. Moi, j'en connais pas. Hein. Lorsque vous prenez de l'aspirine, vous n'allez pas descendre dans la rue pour revendiquer l'aspirine. Donc, c'est ça, si vous voulez.
Presse n'en a pas touché.
Et moi, je me sens effectivement associé à ce combat, c'est-à-dire la possibilité pour tout un chacun, malade ou non malade, parce que tout malade, je dirais, est un tout bien portant est un malade qui s'ignore, pour reprendre la phrase du docteur Knock. Moi, je dirais, si les gens veulent venir nous soutenir, mais pourquoi pas? Parce que c'est nous soutenir, mais c'est soutenir eux-mêmes. Parce que le jour où ils seront confrontés
à un
cancer, il faut se lever, il faut marcher.
Donc, alors, ce procès, le 19 mars.
19 au 23. 9h30 le matin 9h30 jusqu'à midi, au TGI de Créteil, et donc Créteil Université, métro, ligne 8. Tous les jours, il faut remplir cette salle naturellement des assises. Je crois qu'on n'aura aucun problème pour ça, mais il faut un soutien massif de l'opinion publique. Nous, on n'a pas déclaré de manifestation. Je suis tout de suite à la préfecture. Moi, j'ai rien.
Non, c'est pas
une manifestation. C'est un soutien pacifique.
On est au bout, Gérard. Je suis obligé de vous interrompre. Je voudrais simplement dire que je remettrai tous les messages qui sont arrivés à vous ou à Madame Jansky, notamment un message d'un médecin qui pose des questions techniques.
Dans le dialogue hors série, il y a tout un chapitre médical, très poussé, très approfondi,
auquel on ne pouvait pas répondre.
Deux carnets de 10 timbres à 3 francs, c'est très modeste.
Alors, l'adresse, chemin
de Saint-James, 17 550 Dolus, D-O-L-U-S, Dolus d'Oléron, c'est sur l'île d'Oléron, et les personnes mettent deux carnets de 10 timbres à 3 francs. Ils ne sont même pas obligés d'adhérer à l'association, ceux qui veulent le faire seront le bienvenu, mais à prix coûtant, nous cédons une information complète avec toute l'affaire, tout le scandale Beljanski, résumé de A à Z dans ce numéro exceptionnel.
Merci. Merci Gérard Redich. Merci
Beljanski. À vous.
Merci Maître Autry. Merci à vous. À bientôt, on en reparlera.
Les rencontres culturelles Paul Bilaire. Le prochain, c'est samedi 3 mars. Le Chopin de la peinture Herbès Thébert en son musée, 85 rue du Cherche-Midi. Rendez-vous à 14h45. Et puis Jean-Marie Le Pen ayant traité de menteur Yves-Marie Adeline et Martin Pelletier, plusieurs auditeurs souhaitent lire leurs ouvrages pour se faire une opinion et demandent qu'on rappelle les titres. Les voici. Adeline, La droite où l'on n'arrive jamais, édition Sicre, 22 rue Didot dans le 14e. Martin Pelletier, J'ai choisi la bête immonde. ICM, boîte postale 11162, 75920, Paris Cedex, 19, 155 francs, franco. Demandez un site internet, mais demandez-le demain au téléphone, on n'aura vraiment pas le temps de le donner. Alors, ici Radio Courtoisie, la radio libre du pays réel et de la francophonie, programme national, à Paris sur 95 MHz 6, à Caen sur 106, à Chartres sur 104.5, à Cherbourg sur 87.8, au Havre sur 101.1, au Mans sur 98.8, pour toute la France, l'Europe et l'Afrique du Nord sur le bouquet satellite TPS et pour le monde entier sur le site internet tv-radio.com. Vous venez d'entendre le libre journal de Serge Lebeketch avec l'assistance de Victoria, diffusé en direct mercredi 28 février 2001 de 18 à 21h, en différé jeudi 1er mars dans la nuit de 2h à 5h et dans la matinée de 7h30.